Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue, comment ça va les petits amis? Bonjour le chat. Ça roule ou quoi? Hop, attends. Nyeh. Tout le monde va bien? Faut que je resserre ça. Ouais, je le ferai un jour, ouais. Ouais, carrément, ouais. Ouais, un jour, ouais. Bienvenue, hein. Bienvenue, bienvenue. Enchanté. Il y a une faute de frappe? Quoi? Il y a une faute de frappe dans la description de ma chaîne? Pourquoi vous me le dites que maintenant? Ça fait genre 1000 ans que je laisse cette description. Alors attends, chaîne. Hop, boum. Description de la chaîne, tout ça, tout ça. Quel est le fuck? Jean Massier, vulgarisateur politique sur Twitch depuis 2015. Jure. Ah, il y a écrit juste riste. Il y a écrit juste riste au lieu de juriste. Juriste de formation, ancien collaborateur de cabinet, mec sympa quand même. Bah, faut que je l'édite. Faut que je l'édite et faut que je retrouve le fichier. Non, mais je vais le faire. Je vais le faire. Ou alors, on décide qu'on laisse la faute de frappe parce que c'est rigolo. Merci Azarn pour ton resub, merci beaucoup. Voilà, on peut faire ça. On peut décider que on s'en bat les couilles. De toute façon, personne ne lit ce truc-là. C'est notre premier easter egg. Ouais, c'est notre premier easter egg. Voilà, c'est ça. C'est notre premier easter egg. C'est notre easter egg collectif à nous tous. Il y a une faute de frappe dans ma description, dans ma chaîne. Moi, ça me va. Moi, je suis pour. Ça prouve s'il y a des gens qui l'ont vraiment lu ou pas. Ouais, exactement. Non, mais c'est ça. Les gens qui l'ont pas lu, doivent s'abonner. Voilà, c'est la règle. C'est la règle. C'est écrit. Non, mais c'est... Incroyable. Ça va vous ou quoi? Bon, il n'y a pas eu Backseat hier, évidemment, il n'y a pas eu Backseat hier, vous l'avez bien noté. En fait, hier, j'étais invité à participer à une émission de télévision sur la chaîne T18 qui s'appelle Pure Média. Enfin, c'est une émission faite en collaboration entre Pure Média et T18, bref. Une émission qui sera diffusée dimanche, je crois, j'ai cru comprendre que c'était dimanche. Et c'est une émission sur l'actualité des médias. Voilà, et donc ils voulaient parler de ma chaîne, ils voulaient parler de moi, ils voulaient... Il voulait tout ça. Et j'étais en plateau avec Roselyne Bachelot. Figurez-vous. J'étais en plateau avec Roselyne Bachelot, qui est très gentille, qui est très, très sympathique. De toute façon, c'est la première fois de ma vie que je la rencontrais. Je crois que je ne l'avais jamais vue. Et je ne m'attendais pas à autre chose. Hein. C'est une femme absolument adorable. Et voilà, on a discuté de tout, de rien. C'était chouette. Voilà. Et évidemment, il ressort de tout ça, bien sûr, évidemment, une photo de Roselyne Bachelot et moi côte à côte. Voilà, cette photo existe. C'est tout, vous la verrez plus jamais. C'est terminé. J'espère que vous avez profité, c'est fini. Il y a une certaine distance. Ouais, mais en fait, c'est une photo de groupe, parce que j'ai zoomé dans une photo de groupe. Mais peu importe. Donc voilà, non, c'était chouette. Non mais en plus c'était gênant parce qu'elle était sur le plateau et on m'a demandé est-ce que vous pourriez inviter Roselyne Bachelot comme invitée politique. Et plutôt que de faire une réponse polie en disant pourquoi pas un truc gentil, tu vois, en fait je sais pas, j'ai fait une réponse vraie, c'est-à-dire j'ai dit la vérité, j'ai dit bah a priori non. Et après je me suis embrouillé dans des explications en disant non mais en fait c'est pas contre vous Madame Bachelot, c'est juste que en fait on reçoit des invités politiques qui font l'actu en fait, c'est ça qui nous intéresse le plus, c'est d'avoir les gens qui font l'actu de la semaine. Et sans manquer de respect, vous n'êtes plus dans l'actu de la semaine. Mais ça pourrait changer. Au demeurant, ça pourrait changer. Si Roselyne Bachelot prend une position spectaculaire ou je ne sais pas quoi, peut-être que... Voilà. Et peut-être qu'on la recevra sur Backseat, j'en serais très heureux. Parce qu'en plus, Roselyne Bachelot, elle a des trucs à nous dire, je pense, sur les évolutions de la droite. Vous savez, Roselyne Bachelot, c'est quand même une femme politique qui s'est rendue célèbre en 1998, alors que la gauche était au pouvoir, que la droite était dans l'opposition... La gauche a proposé le PACS, qui concernait notamment les personnes homosexuelles. Et Roselyne Bachelot, seule contre son propre groupe, a pris publiquement position pour le PACS. Elle a prononcé un discours célèbre à l'Assemblée nationale, où elle a dit ce qu'elle pensait profondément, et elle a expliqué qu'elle était favorable au PACS, et qu'elle était évidemment en minorité dans sa propre famille politique, mais que c'est ça le courage politique, que d'être capable de dire non. De faire un pas de côté parfois. Merci Altheos. Et donc, Roselyne Bachelot est devenue une femme relativement célèbre à partir de ce moment-là. Elle a ensuite été ministre à plusieurs reprises dans les gouvernements successifs de Jacques Chirac, de Nicolas Sarkozy, puis de Elisabeth Borne, je crois, à l'époque, quand elle était ministre de... Non, non, c'était Édouard Philippe, quand elle était ministre de la Culture. C'était pendant le Covid. Bref, c'est une femme qui a eu beaucoup de responsabilités politiques, c'est une femme qui a eu un parcours politique, et c'est une femme qui, je pense, pourrait avoir des choses intéressantes à nous dire sur comment elle, elle perçoit les évolutions de la droite. Qu'est-ce qui reste du chiracisme aujourd'hui à droite, etc. quoi. Voilà. Je me dis que c'est une femme qui peut être assez intéressante. Mais bref, c'est pas parce que c'est une femme intéressante que j'ai envie de l'inviter dans Backseat. Je n'invite dans Backseat que des gens, en tout cas, j'essaye au maximum d'inviter des gens qui sont dans l'actu. Merci Nexi. C'était Jean Castex le Premier ministre. Oui, c'est ça, vous avez raison. C'était Jean Castex le Premier ministre. C'était après Édouard Philippe. Je m'étais mis dans le crâne qu'elle était rentrée au gouvernement avant le Covid. Je sais plus. Elle était ministre de la Culture à l'époque. Et du coup, je lui ai demandé, on était dans le couloir de l'émission, je lui ai demandé, Madame Bachelot, qu'est-ce que vous pensez de la position de Rachida Dati, votre successeur, sur la question de l'audiovisuel public. Elle m'a répondu, je l'ai dit en commission. Je l'ai dit quand j'ai été auditionné en commission. Elle l'a dit en des termes polis, mais elle me l'a redit. C'est insensé qu'un ministre ne défende pas sa boutique. Rôle numéro un d'un ministre, c'est d'être l'avocat de son administration. Défendre son bout de gras. Défendre y compris contre Bercy, défendre contre l'Élysée, défendre contre l'opinion publique, rien à foutre. T'es là pour c'est ton taf. Et donc le fait que Rachida Dati ne soutienne pas du tout France Télévisions, dont elle est ministre tutelle, alors que France Télévisions est de toute évidence la victime d'une opération coordonnée de l'extrême droite, c'est fou, quoi. Et je suis d'accord avec Roselyne Bachelot. Il se trouve que contextuellement, je suis d'accord avec Roselyne Bachelot vis-à-vis de l'audiovisuel public. Tu défends ta boutique. Elle n'avait pas fait l'actualité au début du Covid, car en 2003, elle avait bien anticipé le SARS-CoV-2. Elle a été nommée ministre juste après. Oui, tu as raison. Attends, il y avait eu une polémique Bachelot au moment du Covid. Parce que... Ah oui, non, mais c'est ça, rappelez-vous. Oui, c'est ça. Au moment du SARS-CoV-2, Roselyne Bachelot, ministre de la Santé, avait commandé des millions de doses de vaccins. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ça avait coûté un fric fou à l'État, qui avait acheté des millions et des millions, des dizaines de millions de doses de vaccins pour se préparer à l'éventualité... Ah, c'était H1N1, vous avez raison, c'était H1N1, c'était pas SARS-CoV-2. C'était H1N1. Merci Arnaud Deliac. Et donc Roselyne Bachelot avait acheté des centaines, des millions de doses de vaccins qui n'avaient servi à rien puisqu'il n'y avait pas eu de grande campagne de vaccination, machin. Et donc les vaccins avaient été détruits fur et à mesure du temps... on s'en était pas servi, etc. machin. Et pendant des années, c'est vrai que je me souviens, à l'époque, les gens ricanaient en disant Bachelot, en disant « Ah ah, Bachelot, celle qui a acheté des millions de doses de vaccins qui n'ont jamais été injectées à personne. Ah ah, ça va, bah, bravo les politiques. Bravo les politiques !» Et puis quand le Covid est arrivé, on a tous eu l'air très très cons. Voilà. Parce que... Merci Isoréa. Parce que finalement, c'est peut-être un peu le rôle d'un ministre de la Santé que de commander en prévision des doses de vaccins pour une maladie qui risque de provoquer ce qu'a provoqué le Covid. Voilà, intéressant comme petit moment politique, effectivement, je me souviens, vous avez raison, de Roselyne Bachelot et les vaccins, ouais. Exactement. C'était des vaccins, pas des masques. Non, c'était des... Alors, ce sur quoi les gens s'étaient moqués de Roselyne Bachelot, c'était les vaccins. Mais elle avait aussi effectivement acheté des masques qui avaient donné lieu à des stocks stratégiques de masques qui avaient été... qui prenaient la poussière, hein, clairement, parce qu'ils n'étaient pas utilisés. Et au fur et à mesure des années, entre le début des années 2000 et les années 2020, bah les masques, la France en avait de moins en moins, parce que je sais pas, la France les écoulait, je sais pas, ils dégageaient les stocks, ils les foutaient à la poubelle, j'en sais rien, mais bref, ça aussi c'était ressorti au moment du Covid, effectivement. L'État n'a pas conservé les masques qui avaient été achetés à l'époque. Et on s'est retrouvés comme des cons, le bec dans l'eau, sans masque, à un moment on en avait vitalement besoin. Mais en tout cas, la critique de l'époque de Roselyne Bachelot, c'était de dire Roselyne Bachelot a péché par excès de zèle et de prévoyance. Elle nous a préparé à un truc qui n'est finalement pas arrivé. Donc on s'est tous posé la question de est-ce qu'on s'est pas un peu trop préparé? Est-ce que ça valait vraiment le coup d'acheter autant de masques, autant de vaccins et tout? Franchement, non mais franchement, c'est n'importe quoi, c'est de la mauvaise gestion. Vous voyez, c'était ça la critique de Roselyne Bachelot. Bon, bah, au regard du Covid. On a relu différemment nos critiques vis-à-vis de Roselyne Bachelot en se disant, ouais, en vrai, un ministère de la Santé, ça sert aussi à ça. Donc tout ça pour dire que j'ai rencontré Roselyne Bachelot et que c'était chouette. Et que c'était chouette. Ouais, non, c'était cool. Ça m'a fait plaisir de la rencontrer. Et voilà quoi. Et puis sinon, donc aujourd'hui, on parle un petit peu de l'actu de la semaine. On fait une FAQ politique, détente, plusieurs sujets dans l'actualité à discuter. Il y a Bruno Retailleau, dis donc. Bruno Retailleau, qui a déclaré sa candidature à l'élection présidentielle. Je vais pas dire qu'on l'attendait pas. Hein? Bon, quand même. Non, mais voilà, bon, le mec, il est président des Républicains. Il y a bien un moment où il allait sortir du bois. Je trouve qu'il est sorti du bois très tôt. D'autant plus tôt qu'il n'a pas attendu, là, il n'a pas attendu la conclusion des travaux des Républicains sur la modalité de désignation du candidat. En gros, faut-il une primaire ou un congrès? Pour désigner le candidat de la droite, il y a un débat là-dessus, tout le monde n'est pas d'accord, il y a des gens comme David Lisnard qui veulent qu'il y ait un congrès, qu'il y ait une primaire, l'UDI également, les Républicains, ça dépend lesquels, ils sont plus ou moins chafouins, ça dépend des jours et tout. Donc, pour répondre à cette question, Bruno Retailleau a lancé un chantier de réflexion au sein des Républicains avec une commission qui doit rendre un rapport dans les mois qui viennent, je crois. À mon avis, c'est après les municipales. Et Bruno Retailleau n'a pas attendu. Bruno Retailleau n'a pas attendu la conclusion de ce groupe de travail pour déclarer qu'il était lui-même candidat à l'élection présidentielle, sans dire s'il avait l'intention de se plier à une primaire ou à un congrès ou quoi que ce soit. Du coup, c'est bizarre, parce que ça veut dire que le groupe de travail des Républicains qui doit trancher sur la question de la modalité de désignation du candidat se retrouve présidé par un mec qui est lui-même candidat à l'élection présidentielle. Un peu chelou quand même. C'est particulier. Bon, à voir. J'ai écouté l'interview de Darius Rochebain pour LCI qui a interviewé Bruno Retailleau en Vendée, parler de sa candidature. Bruno Retailleau a dit que. Il a dit on verra bien, d'une part. Et il a dit aussi, c'est-à-dire qu'en gros, je laisse travailler le groupe de travail qui rendra ses conclusions et on verra. Un peu bizarre, mais pourquoi pas. Et il a dit également, de toutes les manières, à la fin, il y aura bel et bien un vote des adhérents, des Républicains, ça c'est sûr. Est-ce que ce sera un vote dans le cas d'une primaire ou d'un congrès, ça on en discutera, mais lui, il a dit, on est une formation démocratique, ce seront les adhérents qui voteront à la fin. Les Républicains, c'est l'un des plus gros partis de France en nombre d'adhérents. Il revendique plus de 140 000, je crois, adhérents, ce qui me paraît énorme, mais admettons. Bref, il y aura un vote à un moment. Peu importe à la limite les modalités, Bruno Retailleau se retrouve donc candidat à une élection présidentielle à la tête d'un parti qui a toujours du mal avec son identité politique. Voilà, ça n'a pas changé. En fait, ça n'a pas changé. C'est-à-dire que moi, ça fait 10 ans hein, que je dis que les Républicains ont un problème d'identité politique et qu'ils sont écrasés par la tenaille que forment le Rassemblement National d'un côté et le macronisme de l'autre. Et que les Républicains, les électeurs, les Républicains sont très tentés de voter Rassemblement National par vote utile pour gagner la présidentielle, et que les élites des Républicains sont très tentés depuis 10 ans de rejoindre le macronisme qui est à même de leur proposer des postes, des investitures, des trucs comme ça. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec un paquet de ministres issus des Républicains, mais qui font la politique du macronisme. « 140 000, c'est pas ridicule. 140 000 adhérents pour un parti politique, ça fait de toi le plus gros parti politique de France. » Voilà. Donc non, c'est pas ridicule, non. Si c'est vrai, c'est très grave. Si c'est vrai, c'est beaucoup. Si c'est vrai. Eh bon, les Républicains... Vous savez, il y a un truc qui m'a toujours fait rire chez les Républicains, c'est que vous pouvez adhérer en couple... En gros, tu peux inscrire ta femme avec toi sur le... Je sais pas si tu veux faire adhérer tes gosses aussi, mais ils ont un espèce de truc autour de la famille. De toute façon, les Républicains, c'est la droite traditionnelle. C'est le parti de la famille. La famille entendue au sens papa, maman, enfant, labrador, Renault Scénic. Alors, j'adhère. Attendez, je suis sur le site des Républicains. Ah merde, attendez, ça c'est n'importe quoi. Boum, voilà, c'est mieux. Je vais virer aussi ça, ça n'a rien à faire là. Voilà. Alors, mon adhésion et renouvellement simple, 30 balles. Oui, d'accord, c'est assez cohérent comme tarif. Adhésion ou renouvellement couple. Ah, bah voilà. En gros, ça ne te coûte que 10 balles de plus d'adhérer à deux. Chérie, j'adhère aux Républicains. Ça te dit ? Non, mais t'as rien à faire, je m'en occupe. Ah bah très bien. Allez hop. Adhésion les Républicains. Ils ont mis participant 1, participant 2. Oh ! L'écriture inclusive chez les Républicains. Oh là là, ils ont mis parent 1, parent 2, au lieu de mettre papa et maman. Oh, c'est pas bien. Oh là là, c'est pas bien. Le petit conservateur que je suis est profondément choqué de ce que je lis. C'est vraiment le wokisme. Ah, c'est vraiment le wokisme. Ah, c'est... Ah, non, mais vraiment, pardon les Républicains, mais là ça, c'est pas acceptable en 2026. Il faut mettre homme et femme, ou papa et maman, ou père et mère. Mais on ne met pas participant numéro 1, participant numéro 2. C'est terrible. Et vous avez aussi une adhésion tarif réduit pour les moins de 30 ans, les étudiants et les demandeurs d'emploi. S'il y en a que ça concerne parmi vous et que vous voulez adhérer aux Républicains, n'hésitez pas, c'est 15 balles. Si vous avez 15 balles à mettre dans une adhésion aux Républicains, je me permets de vous suggérer de mettre 15 balles dans un soutien à Baxit. Après, je suis pas neutre en la matière, je suis désolé. Je prêche pour ma boutique, voilà. Je fais un don supplémentaire aux Républicains. Voilà. Merci Rachel. Vous mettez vos coordonnées et tu règles par carte bancaire ou par chèque. Bon, bref, c'est une adhésion classique. Bref, voilà, ça m'a toujours fait marrer. Les Républicains, on peut adhérer par couple. Pourquoi je disais ça ? Ah oui, parce qu'on parlait du nombre d'adhérents des Républicains en disant ils sont combien réellement. Les Républicains ont gagné beaucoup d'adhérents l'année dernière lorsqu'il y a eu le vote pour le président du parti qui a été remporté par Bruno Retailleau. Il y a beaucoup de gens ont adhéré ou réadhéré au parti pour pouvoir participer à l'élection du président. Ce qui est plutôt une bonne opération pour le parti qui a gagné du coup un bon gros fichier d'adresse mail d'adhérents. D'ailleurs, Bruno Retailleau, quand il dit qu'il se pliera à un vote des adhérents pour la désignation du candidat à l'élection présidentielle, il ne prend pas beaucoup de risques. Hein. On est d'accord. Enfin, je veux dire, le mec, il vient d'être élu président il y a 6 mois. Quand même peu de chance que les gens ils aient changé d'avis d'ici là, donc à mon avis c'est finger in the nose pour Bruno Retailleau. Merci Florian. Donc voilà. Pourrais-tu expliquer les points de désaccord profonds entre LR et les macronistes ? Bah, c'est les Républicains eux-mêmes qui l'expliquent le mieux, notamment Bruno Retailleau, le président des Républicains, qui est extrêmement critique du gouvernement de Sébastien Lecornu. D'ailleurs, il a claqué la porte du gouvernement de Sébastien Lecornu. Et quand on lui demande pourquoi, il explique que Bruno Lecornu a décidé de faire alliance avec la gauche. Et que ça, c'est intolérable quand on est de droite. On ne peut pas soutenir un gouvernement qui est à la main du premier secrétaire du Parti Socialiste qui dicte ses conditions pour l'adoption d'un budget pour la France. Donc, trop à gauche, le gouvernement Lecornu. J'ai dit Bruno Lecornu ? Ouais, non. Vous m'avez compris, Sébastien. Seb, c'est Seb. Ce bon vieux Seb, pardon. Fatigué le Jean. Ouais, fatigué. Donc voilà. Son départ du gouvernement reste néanmoins raté. Bah, la difficulté de Bruno Retailleau, c'est qu'il est parti du gouvernement, il a pris la tête du parti, mais il n'a pas la tête du groupe de députés. Et le groupe de députés, il est présidé par qui ? Par Laurent Wauquiez. Et Laurent Wauquiez, c'est pas le pote de Bruno Retailleau. C'était même son concurrent à la présidence du parti. Laurent Wauquiez et le groupe des députés n'a pas voulu censurer le gouvernement de Sébastien Lecornu, alors que Bruno Retailleau le leur demandait. C'est même le bureau politique du parti qui a voté un texte d'orientation disant qu'il fallait censurer. Et les députés, ils ont dit « fuck ». Donc c'est le bordel chez les Républicains. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur cette espèce de tentation permanente qu'ont les Républicains d'être un petit peu avec un pied dans la Macronie et un petit peu avec un pied à l'extérieur, voire même un pied chez le Rassemblement National des Diabolisés. Il lui aussi commence à capter de plus en plus, alors pas encore des grandes figures, il y en a quelques-unes, mais c'est, tu vois, des Éric Ciotti, etc. Mais Éric Ciotti, il n'est pas parti avec beaucoup de monde derrière lui. Hein. En tout cas, pas des grandes figures. Mais il a quand même créé son parti politique, il a créé son groupe à l'Assemblée, etc. Merci TKL pour ton raid. Bisous TKL, bienvenue les raiders. On est en train de parler de Bruno Retailleau, président des Républicains, qui a déclaré sa candidature à l'élection présidentielle hier ou aujourd'hui, je ne sais plus, mais bref, c'est très récent. Et on est en train de parler donc des difficultés de positionnement politique du parti Les Républicains, pris en tenaille entre le macronisme et le lepénisme. Et donc voilà. Et c'est pour ça que moi, rappelez-vous l'interview qu'on avait faite de Xavier Bertrand. On a essayé de le cuisiner sur ce sujet-là en disant, mais en fait, c'est quoi votre identité politique ? Ça veut dire quoi être de droite aujourd'hui ? Comment peut-on être ni macroniste ni lepéniste ? Est-ce que ça existe encore ? Est-ce qu'il y a un espace politique pour ça ? Est-ce qu'il y a des électeurs pour ça ? C'est pas simple. Merci Wallfire. Je comprends pas pourquoi autant de personnes annoncent déjà leur candidature à la présidentielle alors qu'on est à un mois des municipales. Ça parasite complètement le débat local. Ils pourraient attendre, ça ne changerait pas grand-chose pour eux. Je suis d'accord avec toi. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que quel est le bon moment pour déclarer sa candidature à une élection ? Il n'y a pas de réponse universelle à cette question. Il n'y a pas de réponse universelle. C'est vraiment une question de contexte, c'est vraiment une question de conjoncture. Dans quoi est-ce qu'on se place, dans quel moment politique on est ? Il y a des candidatures qui se déclarent tôt et qui prouvent avec le temps qu'elles parviennent à s'installer durablement et à monter dans les sondages. C'est notamment le cas de Jean-Luc Mélenchon à deux reprises, en 2017 et 2022. Il y a des candidatures qui se déclarent tôt et qui peinent à montrer l'utilité de leur candidature early game. C'est le cas notamment de Édouard Philippe. Édouard Philippe s'est déclaré candidat gigato, 2 ans de l'élection. Et ça, faut réussir à l'assumer derrière, hein, de faire une campagne qui dure 2 ans, c'est pas simple pour tout le monde. Tu peux être abîmé par le temps, tu peux être abîmé par les polémiques, etc. C'est voilà. On a vu des candidatures hyper tardives. Emmanuel Macron. Emmanuel Macron en 2022, je vous rappelle qu'il a quasiment pas fait campagne présidentielle. Hein. Il a fait 2 meetings, merci, au revoir. Hein. On était en plein pendant la guerre en Ukraine, machin. Ok, il avait plein de trucs à gérer, je veux bien, mais il était surtout en position de defender, donc il n'avait pas besoin de faire une campagne. La preuve, il a été réélu, donc franchement, voilà, il a réussi son coup. Donc, bon. Effectivement, Bruno Retailleau rejoint le club très fermé des candidats déjà déclarés à l'élection présidentielle. On a Bruno Retailleau, on a Édouard Philippe, on a Jérôme Guedj. Je crois que c'est à peu près tout, hein. Ensuite, il y a la primaire à gauche, où il y a des candidats déclarés à l'exercice de la primaire en vue de devenir candidat investi. Mais pour ce qui est des candidats en candidature solo, Nathalie Arthaud, elle est candidate? C'est une bonne question, tiens, j'ai pas regardé. Nathalie Arthaud est officiellement candidate à l'élection présidentielle? Ok, très bien. Eh bien, Nathalie Arthaud. Glucksmann n'est pas candidat, Jean-Luc Mélenchon n'est pas candidat. Attention, ne confondez pas, je suis en train de parler des candidats déclarés. Ne confondez pas les gens que vous pressentez préparer une candidature avec les candidats déclarés. Attal n'est pas candidat. Pas encore. Pas encore. Disons qu'on s'attend raisonnablement à les entendre nous présenter leur candidature dans les mois qui viennent. Certains vont attendre après les municipales. Certains vont attendre après l'été. Et à mon avis, les derniers se déclareront avant Noël. Mais vraiment, Noël, c'est le dernier délai, hein. Noël, t'as 4 mois pour faire campagne, c'est chaud. Que signifie précisément déclarer? Un candidat déclaré à l'élection présidentielle, c'est un candidat qui a déclaré publiquement, à l'occasion par exemple d'une interview ou d'un discours, qu'il était candidat à l'élection présidentielle. C'est tout. C'est public, c'est officiel, ça y est, je suis candidat. À partir de maintenant, je me présente comme candidat à l'élection. Je cherche officiellement à récupérer les suffrages des Français, etc., etc. Jérôme Guedj, par exemple. Oui, Jérôme Guedj. Jérôme Guedj est candidat à l'élection présidentielle. On verra s'il ira jusqu'au bout de sa candidature. Attention, attention, attention. Une candidature, ça peut se retirer. Candidature, ça peut se retirer. Rappelez-vous, Christiane Taubira, voilà, a retiré sa candidature. Très bien. Mais pour l'instant, ouais, on a Édouard Philippe, on a Jérôme Guedj, on a Bruno Retailleau. Ça, c'est pour les déclarer. Et puis ensuite, il y a ceux qu'on suspecte d'être candidats. David Lisnard, il est déclaré. David Lisnard, il est déclaré. Alors ça, c'est une bonne question. Non, non, mais si vous le dites, je vous crois, mais je n'ai pas le souvenir d'avoir entendu, peut-être que j'ai pas beaucoup écouté aussi David Lisnard, présenter une candidature formellement à l'élection présidentielle. Je sais que David Lisnard plaide pour une primaire de la droite et du centre. Ça, je l'ai entendu. J'avais pas suivi qu'il était officiellement candidat. Mais ok. Déclarer, c'est les 500 signatures ou pas encore? Non, non, pas encore, pas encore. Les 500 signatures, c'est dans très longtemps. Les 500 signatures, c'est en gros janvier à mars 2027. La période de collecte des candidatures, c'est à ce moment-là. On a le temps, on est large. On est très, très large. Pour l'instant, on ne se pose pas encore la question des 500 signatures. Lisnard l'a indiqué le 21 janvier selon BFM s'il n'y a pas de primaire à droite. Ok, merci Dams. Merci Dams. Bah ok, bah, tu vois, j'avais zappé cette info-là. David Lisnard, candidat à l'élection présidentielle. S'il n'y a pas de primaire, il sera candidat. Et bah voilà, bah, ça nous en fait un nouveau. Bon après, encore une fois, c'est difficile de faire la part des choses entre les candidats à une primaire et les candidats à la présidentielle directement. Il y en a qui se déclarent un peu aux deux, il y en a qui... Enfin, tu vois, c'est exactement ce que je vous disais au début de ce stream avec Bruno Retailleau, qui est candidat à la présidentielle, mais qui ne ferme pas la porte à un processus de désignation du candidat de la droite. En gros, il joue un peu sur les deux tableaux, sans trop hypothéquer l'avenir. Bon, peu importe, hein. C'est la première fois que j'entends ce nom, Lisnard, il est connu. David Lisnard, ou David Linard, je ne sais jamais comment il faut le prononcer, il est connu. David Linard, c'est le maire de Cannes, de la ville de Cannes. C'est surtout le président de l'Association des maires de France, l'AMF. très très grosse organisation, très influente organisation, l'Association des maires de France, qui organise le Salon des maires chaque année, qui organise le Congrès des maires à l'occasion du Salon des maires, qui pèse lourd dans les négociations avec le gouvernement sur les questions qui touchent à la décentralisation et aux compétences des collectivités territoriales. Ouais, David Linard, gros poisson, peut-être pas le plus médiatique, je vous l'accorde, mais gros poisson dans le petit landerneau de la politique française. Une fois que j'ai dit ça, David Linard est un homme de droite libéral. Lui, ce qu'il caractérise vraiment, c'est le libéralisme politique. C'est vraiment un héritier d'Alain Madelin. Tu retrouves chez lui l'école de pensée libérale de la droite française. Pas du tout gaullisme social, pas du tout droite interventionnisme à la Chirac, etc. On est sur un libéralisme très, très affirmé. Il parle de la dette, il parle de la nécessité de réduire la dette, il parle de la nécessité de réduire le train de vie de l'État, la taille de l'État, la quantité des prélèvements obligatoires, la quantité de fonctionnaires qu'il y a en France, etc., etc. Libérer les énergies locales, libérer les entreprises de la taxation, etc. On est vraiment dans ce champ-là d'argumentaire chez David Lisnard. Voilà. Je vous propose qu'on écoute la déclaration de candidature de Bruno Retailleau. C'est pas tous les jours qu'on a un candidat déclaré à l'élection présidentielle, donc moi je suis curieux de ce qu'il va avoir à nous raconter. Bruno Retailleau qui a fait une déclaration solennelle hier, je crois que c'était au siège du parti Les Républicains. Hop, coucou Bruno Retailleau, on l'écoute.
Mes chers compatriotes,
bonjour.
Français de l'Hexagone, des Outre-mer ou qui vivaient à l'étranger, j'ai pris la décision d'être candidat à l'élection présidentielle. Cette décision, je la prends avec la sincérité de mes convictions, avec la force de mon engagement et la gravité qu'exige le moment. Car je refuse de laisser notre pays dans l'état où il se trouve aujourd'hui. Une France qui s'enfonce, une France qui s'efface, dans un monde de plus en plus menaçant. À l'Est, Vladimir Poutine sème la guerre à nos portes. Et la Chine, quant à elle, est en train de s'infiltrer, tisse sa toile au sein de notre continent. À l'Ouest, Donald Trump impose sa loi brutale et menace l'unité même de notre continent. De son côté, l'international islamiste répand la terreur dans les pays qu'elle domine, tout en cherchant à infiltrer nos sociétés. Face à toutes ces menaces, l'Europe a un rôle à jouer, mais elle devra défendre son identité, son projet et mettre fin à ses dérives technocratiques.
Bon, je rappelle que c'est une déclaration de candidature à l'élection présidentielle. Il ne faut surtout pas s'attendre à grand-chose de précis dans ce genre de discours. Là, ça, c'est un discours pour marquer le coup. C'est un discours pour dire je suis candidat. Il va donner des grandes lignes de ses idées, etc. Mais on n'est pas du tout à l'heure du programme, des propositions concrètes, du chiffrage, etc. Ça arrivera bien plus tard. Là, il vient de faire une introduction assez classique en disant l'heure est grave. Le système international, la situation internationale impose de prendre des décisions importantes. Voilà, on va être dans ce registre-là de langage. C'est tout à fait normal et attendu pour cet exercice.
Enfin, je veux parler de nous. Nous, les Français. Car c'est précisément en cet instant où la France devait être forte qu'elle est faible. Pourtant, j'en ai les convictions. Nous possédons tous les ressorts pour qu'à nouveau le monde regarde la France avec respect. Mais pour affronter les désordres du monde, notre pays devra d'abord remettre ses affaires en ordre. Qui aujourd'hui, qui d'entre nous peut regarder le pays que nous aimons sans ressentir une forme de troubles, de la tristesse ou même parfois de la colère. Mais heureusement pour la France, le temps d'agir approche.
Classique discours politique, la situation est terrible, les Français sont troublés et tristes quand ils regardent leur propre pays, mais heureusement j'arrive, les jours heureux sont devant nous, etc., etc. Vous connaissez par cœur, c'est la politique. On continue.
Car seule élection présidentielle permet d'agir vraiment. Oui, agir pour ne plus subir. Pour ne plus subir l'impuissance, alors qu'il faudrait de l'action. Pour ne plus subir des renoncements, alors qu'il faudrait du courage. Pour ne plus subir les mensonges, alors qu'il faudrait la vérité. L'engagement que je prends, c'est de toujours vous dire la vérité. Dire la vérité, c'est dire que on ne peut plus tricher avec la réalité.
Ça aussi, c'est un argument qui est intéressant parce qu'il est, il est très ancien hein, dans la politique, notamment à droite, même si la gauche l'utilise aussi, c'est « moi, je vais dire la vérité aux Français ». Les Français ont droit à la vérité, nous leur devons la vérité, même si elle est dure à dire, il faut dire la réalité. Rappelez-vous ce que disait le maire de Pau, François Bayrou, en septembre dernier, quand il alertait les Français en leur disant « je dois vous dire la vérité, je suis chef du gouvernement, je vous dois la vérité, et la vérité, c'est que la situation des comptes publics est dramatique, que notre niveau d'endettement est intenable, etc. etc. » Voilà, classique discours politique, y compris à droite avec cette idée de la vérité, elle est salutaire pour le peuple d'en bas qui ne doit pas se laisser berner par les élites qui lui mentent. Et les élites qui lui mentent, c'est qui ? C'est la gauche, qui leur raconte n'importe quoi, la gauche qui promet monts et merveilles gratuitement pour tout le monde, etc., etc. Et ça, c'est un truc qu'on entend beaucoup dans cette fierté du peuple de droite, de s'affirmer comme étant au contact du réel, le vrai, celui qui ne plaisante pas et celui qui ne se laisse pas bercer d'illusions.
Dire la vérité, c'est dire que l'immigration n'est pas une chance, parce qu'au-delà d'un certain nombre, une société multiculturelle est toujours une société multiconflictuelle.
Grand argument de Bruno Retailleau depuis des années. Une société multiculturelle, c'est une société multiconflictuelle. Discours profondément dangereux, pour le moins. J'ai vraiment souhaité la conflictualité. On est très très loin du chiracisme, de la lutte contre l'extrémisme et de la volonté de réduire les fractures, etc. Là, c'est quasiment assumer une conflictualité.
Dire la vérité, c'est dire qu'on ne peut pas vivre mieux en travaillant moins, que l'État ne peut pas dépenser plus que ce qu'il ne gagne. C'est dire aussi que c'est la compétitivité de nos entreprises qui permet d'augmenter les salaires. Il ne peut pas y avoir de progrès social sans prospérité nationale. Dire la vérité, enfin, c'est dire que notre école est devenue une machine à reproduire les inégalités, puisque désormais la réussite des enfants dépend de la position sociale de leurs parents. Cet échec est une honte. Oui, une honte. L'école a besoin d'une refondation. La refondation par le mérite et par la liberté. Mes chers compatriotes, je ne veux pas être président de la République par obsession du pouvoir, mais par sens du devoir. Je ne chercherai pas à séduire à tout prix, et encore moins, au prix de mes convictions. Je ne tenterai pas de vous convaincre par des slogans démagogiques ou des postures théâtrales. Je crois au sérieux, à la constance, je crois à la cohérence. Et je ne promettrai rien que je ne pourrai tenir. C'est la ligne de conduite qui a toujours guidé mon engagement depuis ma petite patrie charnelle, la Vendée, jusqu'au ministère de l'Intérieur. Pour agir, je veux d'abord rétablir l'ordre. Pour cela, il faudra reconstruire.
Rappelez-vous de Bruno Retailleau, le jour où il est entré au ministère de l'Intérieur, il a prononcé un discours d'intronisation très précis. J'ai trois priorités, l'ordre, l'ordre et l'ordre. Ça avait bien marché pour Bruno Retailleau médiatiquement. Il avait bien marqué les esprits à ce moment-là sur « Ah oui, Bruno Retailleau, attention, c'est fini la rigolade, maintenant c'est le retour de l'ordre, l'uniforme, la police, etc. » Je l'ai toujours entendu continuer sur cette voie-là, rétablir l'ordre. Est une idée intéressante parce qu'elle elle dit quelque chose en creux qui est que nous sommes une société en désordre. À la tête de l'État, comme dans la rue, c'est le désordre permanent, c'est n'importe quoi. On est dans un discours, pour le coup, assez classique de la droite conservatrice, mais qui est repris aussi par l'extrême droite depuis longtemps, cette idée que la situation est intenable et chaotique et anarchique, et que ce dont le pays a besoin, c'est d'un retour d'une certaine forme de hiérarchie, d'organisation, d'autorité, pour ne pas dire d'autoritarisme. Ouais, la chienlit, exactement, la chienlit de De Gaulle, pour éviter la chienlit, le retour de l'ordre, etc. Machin. C'est pas le seul, loin de là, hein, Bruno Retailleau a utilisé ça, mais c'est vrai que Bruno Retailleau est l'un des visages les plus connus à manier cette rhétorique du retour à l'ordre.
L'État, je le remettrai à sa juste place, pour qu'il laisse respirer les Français, pour que vous puissiez mieux vous soigner, mieux vous loger, pour vivre mieux, tout simplement. Mais je ferai aussi respecter l'État, pour imposer partout l'autorité de la République, à nos frontières, dans nos rues. Je ne reculerai pas, je ne céderai pas, ni à la violence, ni au politiquement correct, ni aux dérives de l'état de droit qui s'est retourné contre le droit des Français à vivre en paix et en sécurité. Je veux aussi agir pour garantir la justice. Pour cela, il faudra refonder notre modèle social, parce que nous n'avons plus le droit de faire payer nos dettes à nos enfants. Nous devrons faire des économies et donc faire des choix. C'est pourquoi j'assume de donner la priorité au travail plutôt qu'à l'assistanat. Je rendrai justice à ceux qui le méritent vraiment.
L'assistanat, ça aussi, mot marqueur de la droite conservatrice, surtout de Laurent Wauquiez et encore plus de Bruno Retailleau. Pardon, c'est dans l'autre sens, c'est surtout de Laurent Wauquiez que l'on connaît cette lutte acharnée contre l'assistanat, contre cette idée qui remonte aux années Nicolas Sarkozy, qu'il y a des gens qui sont payés à rien foutre, il y a des gens qui perçoivent des hectolitres d'aide sociale par mois, qui sont dans leur canapé à zapper, des chômeurs qui ne sont pas au travail alors qu'ils pourraient l'être, des malades qui sont en convalescence bien plus longtemps que nécessaire. Voilà, et ça, ce discours-là, c'est un discours très mobilisateur, pour la droite du travail, pour la droite du mérite et de l'effort. Le génie de Nicolas Sarkozy en 2006 avait été de mettre en avant cette idée de la France qui se lève tôt. Et ça, la France qui se lève tôt, ça avait très très bien marché dans l'oreille de tous les Français qui se lèvent tôt pour aller bosser. En se disant, c'est vrai que je me casse le cul à mettre mon réveil à 6h du matin tous les matins depuis maintenant 30 ans, pendant qu'il y en a, si ça se trouve, qui foutent rien et tout, machin. Et voilà, et donc toute cette lutte contre l'assistanat, tu la retrouves dans cette valorisation du travail, de l'effort et du mérite, très très cher à la droite conservatrice.
Je relancerai une grande politique familiale, car seule la relance de la natalité assurera notre destin. Je serai le protecteur de la France des travailleurs, pas de la France des profiteurs. Enfin, je veux agir pour faire renaître la fierté française, parce que rien n'arrête les peuples fiers, rien. Et je veux donner aux jeunes Français une France à aimer. Je défendrai notre mode de vie, notre culture, nos coutumes, notre civilisation. N'ayons pas honte de la France, au contraire, soyons fiers d'être Français. C'est à cette condition que nous relancerons une France debout.
On sent évidemment les relents culturels d'une fierté française qui s'oppose à un certain multiculturalisme, à une élite déconnectée qui aime les films, la musique interlope, très étrange, nouvelle, mondialisée, la mauvaise mondialisation par opposition à nous, le vrai peuple de la vraie France, le peuple des châteaux forts. voilà, on est au cœur du Puy du Fou, hein, c'est pas pour rien, il vient du Puy du Fou, Bruno Retailleau, il faut pas s'attendre à autre chose de sa part, bien sûr. Mais cette idée aussi culturelle, elle est importante. Et vous la retrouvez d'ailleurs dans la commission d'enquête de l'extrême droite sur l'audiovisuel public, cette espèce de mise au banc, de mise en accusation d'une espèce d'élite culturelle qui finance des trucs n'importe comment, alors que la vraie culture de la vraie France de nos régions, il faut la défendre et tout machin. Ah là là.
France indépendante. Mais la souveraineté, elle ne se décrète pas. Elle se conquiert. C'est pourquoi demain, la loi cessera de brider l'esprit d'audace et le goût de l'innovation. Je réorienterai la protection de notre environnement vers une écologie de progrès. C'est ainsi que nous ferons de notre patrie une grande nation industrielle.
Bon, ça veut rien dire. Enfin, pourquoi pas alors là, pour le coup, je suis curieux des propositions de Bruno Retailleau concrètes sur la question écologique, la réorientation industrielle dont il parle. En plus, il lit l'un à l'autre, c'est assez intéressant, mais ok, là il n'a rien dit. Je réorientais vers une écologie de progrès, oui, très bien. Volontarisme politique, super. Bruno Retailleau, qui avait été l'un des artisans du préjudice écologique dans le Code civil, je crois de mémoire. Il a fait partie de ceux qui l'ont marqué dans la Constitution. Donc, pas dans la Constitution, pardon, dans la loi. Je suis curieux.
Peuple de créateurs, d'entrepreneurs, d'ingénieurs. Oui, je serai le président de l'ordre, de la justice et de la fierté française. Je suis convaincu que ces attentes sont majoritaires dans le pays. Oui, une majorité nationale existe et j'entends qu'elle soit respectée. Je ne ferai pas une politique pour des clientèles ou pour des minorités. Je ferai une politique pour toute la nation. Pour cela, je vous redonnerai le pouvoir de décider. Le pouvoir de décider. C'est pour moi un enjeu vital. En démocratie, on ne peut pas et on ne doit plus gouverner contre le peuple. C'est pourquoi, lorsque je serai élu, je vous soumettrai directement, par référendum, plusieurs grands textes de loi. Ils constitueront le socle de notre nouveau contrat social.
Alors ça, c'est une proposition intéressante. Là, tu retrouves le gaullisme historique. Cet appel au peuple, cet appel au génie français, cet appel, alors génie français, c'est aussi un truc de gauche, mais cet appel au bon sens paysan des Français qui vont être amenés à se prononcer en peu de temps sur quelques référendums clés. On retrouve la proposition chez Marine Le Pen, d'ailleurs. En gros, dès que j'arrive à l'Élysée, je déclenche des référendums pour installer durablement des caps très importants dans la politique, notamment la politique migratoire, mais pas seulement. Le plébiscite, oui, on retrouve la pratique plébiscitaire aussi, même si on ne sait pas encore s'il va lier son mandat de président de la République éventuel à celui du sort du référendum, mais bon.
Pour réduire drastiquement l'immigration, engager une véritable révolution pour notre justice pénale et redonner la priorité à notre droit national dès lors qu'il s'agit de protéger nos intérêts fondamentaux. Je ne prendrai personne par surprise. Je ne ruserai pas. Je ne cacherai rien, ni ce que je suis, ni ce que je ferai. Au cours de la campagne présidentielle, je vous présenterai le texte et le calendrier de chaque projet que vous devrez trancher.
Ça, c'est audacieux comme proposition. C'est intéressant, mais c'est audacieux. Et ça peut marcher, électoralement. Parce qu'il nous dit que pendant la présidentielle, il va nous dire précisément les sujets et les textes sur lesquels il appellera à voter le peuple français par référendum après son élection. Je pense que ça peut marcher électoralement auprès d'un public de droite qui en fait, pourrait être tenté de voter Retailleau en se disant « lui, au moins, il nous fera voter. Lui, au moins, il nous fera participer. » Une sorte de démocratie participative de droite. Un truc assez intéressant, mais pourquoi pas de dire « je vote Bruno Retailleau parce que je vote pour des référendums. Je veux effectivement 3 référendums importants sur la dette publique. J'en sais rien, sur l'immigration, il l'a dit, sur le travail, je ne sais pas exactement, mais c'est intéressant de la part de Bruno Retailleau de dire qu'en tout cas, dans le cadre de sa campagne présidentielle, il nous présentera les textes qui seront soumis à référendum.
Le pacte de confiance que je propose à tous les Français, mes chers compatriotes, chaque génération a devant elle une tâche à accomplir, un devoir à assumer, transmettre une France meilleure à la génération suivante. À nous, il revient de reconstruire la France. Je ne vous dis pas que ce sera facile, mais je vous promets que c'est possible. J'ai vu précisément au ministère de l'Intérieur quels étaient les verrous à faire sauter pour briser l'impossibilisme qui nous paralyse trop souvent. Je sais ce qu'il faut faire, les décisions à prendre et les textes à faire voter. Tout cela est à notre portée si nous menons notre projet résolument et calmement. Simplement, il nous faudra ensemble du courage, de la détermination et beaucoup de volonté. Et cette certitude, oui, cette certitude que la France se relève toujours pour peu que nous, les Français, nous le décidions. Voilà ma conviction. Voilà l'appel que je vous lance aujourd'hui pour la République que nous servons et pour la France que nous aimons.
Voilà pour ce discours d'annonce de candidature de la part de Bruno Retailleau. Une candidature sans surprise. Déjà, on se doutait que Bruno Retailleau avait l'intention d'être candidat à la présidentielle. J'ai été surpris par le timing, je vous avoue, parce que je m'attendais à ce qu'il se déclare plus tard que ça, à minima après les municipales. Sans surprise non plus dans le fond, on a une droite conservatrice, libérale, qui flirte avec l'extrême droite, clairement, sur la question migratoire. Il n'a pas beaucoup parlé de l'état de droit. Je l'ai entendu chez Darius Rochebain expliquer que l'état de droit se retournait contre les Français. ça, typiquement, c'est un marqueur d'extrême droite, très important. En plus, les gens ne savent pas très bien ce que c'est que l'état de droit, donc c'est vrai que ça y a un côté bon sens paysan contre ces méchants juges qui nous empêchent de... Voilà. Pas de surprise, la seule chose à noter que je trouve intéressante, encore une fois, ce sont ces fameux référendums que Bruno Retailleau nous tease en nous disant qu'il nous donnera le détail des sujets sur lesquels il voudra consulter les Français. Bon, pas grand-chose de plus à dire sur cette candidature de Bruno Retailleau. À suivre, évidemment à suivre, à voir ce qu'il a envie d'ancrer comme thème de sa campagne, comment il réagit aussi aux autres candidatures à côté. C'est une ligne très Zemmour d'extrême droite libérale. Alors, on n'est pas au niveau de Zemmour. Zemmour, il réhabilite Philippe Pétain. C'est pas comparable avec Bruno Retailleau. Ceci étant, sur le caractère libéral, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que l'un des trucs qui distingue Éric Zemmour de Marine Le Pen, ce sont les questions économiques et sociales. Merci Myrigan. Où Bruno Retailleau, comme Éric Zemmour, fustige Marine Le Pen comme une espèce de démagogue qui a une politique de gauche, qui n'hésite pas à jouer du chéquier et à faire exploser les taxes. Bruno Retailleau rappelle avec appétit que Marine Le Pen et les députés du Rassemblement National ont voté plusieurs dizaines de milliards d'euros de taxes supplémentaires dans le budget. Bon. Donc effectivement, il y a un gap intéressant qu'on retrouve à la fois chez Zemmour et chez Retailleau contre Marine Le Pen, c'est d'accuser Marine Le Pen de bouffer à tous les râteliers, de changer d'avis sur tous les sujets, ce qui est vrai. et en matière de travail et d'économie, Marine Le Pen, elle a la politique du chéquier de la gauche. En gros, c'est ça la critique. Sa candidature, elle est soutenue par LR, où il a pris les devants pour couper l'herbe sous le pied des autres candidats LR. Sous le pied des autres candidats LR. Bruno Retailleau n'est pas encore investi officiellement par le Parti Les Républicains, dont il est le président. Il a dit qu'il y aurait un vote. Soit ce sera un vote du Congrès des Républicains pour le désigner candidat, comme ça avait été le cas en 2022 pour Valérie Pécresse, soit il sera candidat à une hypothétique primaire de la droite et du centre, dont les contours sont encore flous, voilà. Donc voilà. Pourquoi le Congrès et pas les adhérents ? C'est la même chose. Le Congrès, c'est les adhérents. Un Congrès, pour celles et ceux qui ne le savent pas, un Congrès, c'est l'Assemblée Générale des adhérents d'un parti politique. Tous les partis n'utilisent pas ce mot-là, mais c'est un mot un peu qui est un peu rentré dans l'ordre pour beaucoup de partis, notamment traditionnels comme les Républicains. Il y a la même chose au Parti Socialiste, au Parti Communiste. Le Congrès, c'est l'AG, qui vote sur des textes d'orientation, qui vote sur des candidatures, sur des investitures, pardon, et qui vote pour élire les représentants dans les instances dirigeantes du parti. Voilà. Comment Laurent Wauquiez va réagir ? Ça, c'est une bonne question. Comment Laurent Wauquiez va réagir à cette déclaration de candidature de Bruno Retailleau ? Est-ce qu'il va attendre un peu, Laurent Wauquiez ? Est-ce qu'il va réclamer une primaire ? Ce sera à suivre. À mon avis, en ce moment, le portable de Laurent Wauquiez est en train de vibrer parce qu'il y a un paquet de journalistes qui ont envie de l'interviewer. Bah oui. Donc, bon. Non, voilà, je ne sais pas quoi dire de plus sur cette candidature de Bruno Retailleau. Je la trouve très anticipée. Les municipales n'ont pas encore eu lieu. Je pense qu'il risque de se cramer, mais bon, je ne sais pas. Ça va être intéressant. La vraie question, c'est est-ce que Bruno Retailleau est à même de représenter une menace pour Marine Le Pen ou Jordan Bardella. Encore une fois, on ne sait pas qui sera candidat, tout ça, mais pour le Rassemblement National. Est-ce que Bruno Retailleau peut relever les Républicains dans l'électorat de droite ? Est-ce que Bruno Retailleau peut aspirer à lui un électorat macroniste ? Est-ce qu'il peut aspirer à lui une partie de l'électorat de Marine Le Pen ? Une droite populaire, une droite rurale ? Voilà. Est-ce qu'il peut grappiller des voix précieuses ? pour menacer le RN de ne pas être au second tour. Je vous rappelle qu'à l'heure où je vous parle, le Rassemblement National, il est à plus de 30% d'intention de vote. On n'est pas loin d'un Français sur trois qui a l'intention de voter RN. Donc, on est loin d'une capacité de Bruno Retailleau à être une menace. Mais bon, une dynamique de campagne, ça peut montrer des choses intéressantes. Est-ce que tu inviteras Bruno Retailleau à Baxit ou tu considères qu'il est trop d'extrême droite? Non, moi, ça m'intéresserait d'interviewer Bruno Retailleau précisément sur ce sujet-là, en fait, pour parler de la droite, des histoires de la droite, comme on l'avait déjà fait avec Xavier Bertrand, qui avait une position très claire et très anti-extrême droite. Quelle est la position de Bruno Retailleau vis-à-vis d'hypothétiques alliances avec l'extrême droite? Est-ce qu'il serait à même de gouverner demain avec l'extrême droite? Qu'est-ce qui fait que son projet n'est pas d'extrême droite? Ou alors il l'est, mais à ce moment-là, qu'ils me le disent, ça m'intéresse. Voilà, c'est effectivement un axe d'interview qui m'intéresse pour un Bruno Retailleau, parce que je suis curieux de sa réponse. Et voilà. Est-ce que la candidature de Bruno Retailleau est en lien avec la déclaration du ministre de l'Intérieur qui qualifie LFI d'extrême gauche? Non. Bon, je pense que c'est pas lié du tout. Retailleau sur Brexit. J'en sais rien. Il faudra voir. Si ça se trouve, il en a aucune envie. Hein. C'est aussi ça. Mais il faudra voir. Mais moi, ça m'intéresse de l'interviewer précisément sur les liens qu'il a avec l'extrême droite, des liens d'idées, des liens de partenariat potentiels pour un gouvernement. Où est passée la droite française? Ce qui est un peu la question que j'avais posée à Xavier Bertrand. Hein. Elle est où la droite de mon enfance? Vous en êtes où maintenant? Est-ce que vous êtes les supplétifs de Marine Le Pen? Est-ce que c'est ça qui est devenu la droite française? Il est passé où le gaullisme? Il est passé où le chiracisme? Voilà, c'est des questions qui m'intéressent. Tu l'avais interviewé pour Public Sénat à l'époque? Oui, j'avais interviewé Bruno Retailleau il y a 4 ans sur le plateau de Public Sénat. Sur le plateau d'une émission que je produisais pour Public Sénat et qui était une émission d'interview de députés. Bah tiens, je vais vous montrer l'extrait parce que j'ai fait un extrait hier que j'ai partagé sur mon compte Blue Sky où je lui pose la question justement la question du Front Républicain et la question de l'extrême droite. Et il m'avait fait une réponse à l'époque. En tout cas, il était président du groupe Les Républicains au Sénat et il m'avait fait une réponse que voici.
Que le Front Républicain existe toujours.
Le Front Républicain existe toujours. Il a été déplacé. Ça n'est pas du tout le même que du temps de
Jean-Marie
Le Pen. Non, pas du tout.
Pour
du
vous,
tout.
C'est pas pareil, Marine Le Pen et Jean-Marie Le Pen. Non, elle est dédiabolisée. Vous pourriez travailler avec elle demain?
Non, non, parce qu'elle a toujours non. Non, non. Elle s'est dédiabolisée, pardon. Mais je ne pourrais pas travailler avec elle parce que je pense qu'elle reste dans sa catégorie de la démagogie. Un jour, elle nous dit qu'il faut quitter l'Europe. Maintenant, elle veut rester dans l'Europe. Un jour, elle nous dit qu'il faut quitter l'euro. Maintenant, elle veut garder l'euro. Un jour, elle nous dit qu'il faut la retraite à 60 ans. Maintenant, elle dit oui, mais il faut augmenter le nombre de trimestres de cotisation. C'est la démagogie. Et c'est une marque de cette droite extrême. Je préfère utiliser ce terme-là. Et je pense que nous, quand je vous parlais de la vérité tout à l'heure, c'est ce qui nous caractérise. La démagogie, c'est de dire toujours ce que les gens attendent, ce qui est le plus sucré à leurs oreilles. Non, moi je pense que la politique, c'est aussi de dire parfois ce qui peut gratter, ce qui peut mal passer, parce que c'est la vérité. Voilà. Donc non, moi on est très différents.
Est-ce que le Front Républicain existe toujours?
Pardon, excusez-moi, j'ai pas allumé mon micro. Voilà, donc c'était un extrait d'une interview qui a duré une heure, hein, que j'ai faite de Bruno Retailleau à l'époque. Ce qui est intéressant dans sa réponse, c'est qu'en fait, il me fait deux réponses en une seule. Il commence par me dire que Le Front républicain a changé parce que Marine Le Pen n'a rien à voir avec Jean-Marie Le Pen. Du coup, je le relance tout de suite en lui disant, mais du coup, vous pourriez travailler avec Marine Le Pen? Et là, il me dit non. Il dit, mais c'est intéressant parce que vous venez de me dire que c'est plus pareil, faut voir, faut discuter, machin. Mais quand je repose la question plus clairement, en fait, non, c'est hors de question de travailler avec l'extrême droite parce qu'elle est démagogue, parce qu'elle a un rapport à la vérité contrarié, etc. Bon. Ben voilà comment il me le disait, voilà comment il me le disait à l'époque. Je sais pas. Sa réponse dévoile justement qu'ils ne sont pas au clair sur la question. Bah, je suis d'accord avec toi. Moi, c'est ce que j'en tire en tout cas comme enseignement, c'est que lui-même, il sait pas. C'est que lui-même, il sait pas, il est pas clair, que la tentation est forte, et que les frontières sont... Les frontières sont difficiles, sont compliquées. Penses-tu que cette candidature de plus à droite peut être une chance pour la gauche? Je pense que si la gauche ne compte que sur les divisions de la droite, elle est perdue d'avance. On ne gagne pas une élection comme ça. C'est une stratégie de défaite. Et je pense que la gauche n'a pas intérêt à ce que la droite... Oh, remarque. Non, mais... Je sais pas. Si le Rassemblement National s'effondre pour je ne sais quelle raison et que renaît à droite un grand parti, les Républicains, est-ce que ce serait mieux pour la gauche? Est-ce que ce serait mieux pour la France? Sans doute. Est-ce que ce serait mieux pour la gauche? J'en sais rien. À gauche, il n'y a toujours personne à part Mélenchon? Ben non. Depuis 10 ans. Ça fait baisser le seuil pour le second tour, mais rien de plus. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais je suis d'accord avec toi, Elias. C'est ça. C'est qu'en fait, bon, arithmétiquement, ça peut participer à faire baisser le seuil d'accès au second tour. Mais faut pas parier là-dessus. Hein. Ouais, non. Quel parti est le mieux engagé pour 2027, selon toi? Le Rassemblement National, sans l'ombre d'un doute, est le parti le mieux engagé pour 2027. Et de très très loin. La gauche, ça fait 14 ans qu'elle est au pouvoir, c'est le tour de la droite. T'es gentil. La gauche, elle est au pouvoir depuis 40 ans. Elle nous assomme avec ses taxes, avec ses charges sociales qui nous empêchent de respirer. Tout est de la faute de la gauche. Mais oui, tout. Sans exception. C'est tellement facile d'être de droite. Non mais oui. Les gens de gauche sont d'accord. Les gens de droite te diraient exactement la même chose de la gauche. C'est quand même énorme que le RN soit en tête alors qu'ils ont un procès aux fesses. Ça dit quelque chose sur l'envie de rupture en France d'après toi? Non. Le fait qu'un parti politique ait un procès au cul n'affecte le parti politique que vis-à-vis de l'extérieur. Mais vis-à-vis de l'intérieur, les adhérents, les sympathisants, ils n'arrêtent pas de soutenir un parti sous prétexte qu'il a un procès. Au contraire, ça renforce, l'effet martyr renforce l'adhésion en disant « Ah ah, les juges, le système qui s'acharne sur mon candidat ou ma candidate ». C'est bien la preuve que j'ai raison d'avoir raison. Et ça, vous le retrouvez dans tous les partis, c'est normal. C'est normal. Ainsi va le fonctionnement d'adhésion à un parti politique. Est-ce que ça peut affaiblir les gens de l'intérieur ? Qu'est-ce qui peut affaiblir les gens de l'intérieur ? Les divisions. Les divisions. Ça, les divisions, ça fait fuir. Si demain, il y a un clash entre Marine Le Pen et Jordan Bardella, ça peut fracturer le Rassemblement National et ça peut dégoûter beaucoup de sympathisants du Rassemblement National. Ça dépend des cultures politiques aussi. Il ne faut pas faire de généralité parce que ça dépend aussi des cultures politiques. Il y a des partis politiques qui sont historiquement des partis démocratiques dans leur fonctionnement et qui donc organisent le dissensus en interne avec des motions, avec des chefs de file, avec des personnalités nationales qui sont en désaccord avec le voisin dans le même parti et tout. Bon, là c'est moins friable. C'est pas très grave, disons. C'est pas un parti, mais un mouvement. Il n'y a pas de carte d'abonnement annuelle. Tu parles de qui ? Temporairement, non. Genre Bruno Maigret, ça n'a pas tué le RN. La division Marine, Jean-Marie, puis Marine, Marion Maréchal, etc., ça les a pas tués non plus. C'est vrai. C'est vrai ce que tu dis, tu as raison. T'as une particularité dans le Rassemblement National quand même, c'est le caractère familial et patrimonial du parti, qui fait que celui ou celle qui a le nom de famille a plus de légitimité que les autres. Effectivement, pour Marion Maréchal, ça n'avait pas été le cas, parce qu'elle avait quitté le RN pour rejoindre Éric Zemmour, et Éric Zemmour avait fait un score relativement décevant à l'élection présidentielle. Donc ça, disons que Marion Maréchal n'avait pas emmené avec elle une horde de sympathisants du RN. Un scandale à la DSK ou Fillon, ça pourrait les faire tomber aussi. Non, 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 non. Non, c'est pas vrai. François Fillon, pardon de vous rappeler que François Fillon a été aux portes du second tour à 20% des voix, malgré le scandale. DSK n'était même pas candidat, mais DSK n'a pas perdu ses soutiens au sein du parti, sous prétexte qu'il a été arrêté à New York. Rappelez-vous les Strauss-Kahniens qui faisaient la tournée des plateaux télé pour expliquer que tout ça ne ressemble pas à Dominique, c'est quand même un peu flou, il y a un loup, machin et tout. Ça va, enfin c'est... Parce que le procès en cours, c'est pas un scandale peut-être. Mais c'est exactement la même, c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Marine Le Pen est en procès en appel pour des détournements de fonds publics au Parlement européen. Vous et moi, ça nous scandalise. Les sympathisants du RN, pas du tout. Pas du tout. Ils soutiennent encore plus Marine Le Pen, la pauvre, elle est victime du système judiciaire et des juges rouges. Donc ils sont à fond derrière elle, tout va bien. Est-ce que Bardella a moins de chances que Marine Le Pen ? Ça, c'est une bonne question. C'est dur à dire. C'est dur à dire parce que jamais, c'est ce que rappelait Libération, jamais le Rassemblement National n'a présenté à la présidentielle autre chose que le nom Le Pen. Depuis 1972, c'est toujours Le Pen qui est candidat à l'élection présidentielle. Qu'est-ce qui se passera le jour où ce ne sera plus Marine Le Pen et où ça deviendra Jordan Bardella ? Est-ce que Jordan Bardella va bénéficier de tout ce qu'a construit Marine Le Pen, de toute sa stratégie de dédiabolisation, etc. ? Est-ce qu'il va s'effondrer parce que les sympathisants lui reprocheront des choses, une imprécision, une jeunesse ou je ne sais pas quoi ? C'est très très dur à dire avant. Mon pari à moi, c'est que ça ne changera rien. C'est que... c'est que les électeurs d'extrême droite, ils voteront Rassemblement National, que ce soit Bardella ou Marine Le Pen. Bardella, maintenant, a bien été vendu à l'électorat. Il est connu, son visage est apprécié. Il a beaucoup de soutien et tout. Bardella se fera fumer en débat, Le Pen est meilleur. Pareil, je suis désolé, mais les débats, les partisans applaudissent toujours à l'issue d'un débat. Hein. Les partisans des deux camps trouvent que leur champion a fumé l'autre. Ça s'était relativement mal passé pour Marine Le Pen face à Emmanuel Macron, de mon point de vue et du point de vue de beaucoup d'observateurs. Mais ça n'a pas empêché Marine Le Pen de retrouver son électorat de premier tour au second tour. Les gens n'ont pas changé d'avis en se disant « Tiens, plutôt que de voter Le Pen au second tour, je vais voter Macron. » Non. Macron a gagné la présidentielle à deux reprises grâce au Front Républicain. Et que Macron ait été bon ou mauvais en débat, le Front Républicain, il aurait marché pareil. Hein. Et Macron a montré que les débats n'étaient pas obligatoires en campagne présidentielle. Oui, alors je parlais en l'occurrence des débats d'entre-deux tours, mais tu as raison pour le premier tour. Alors, le débat, ce qu'on appelle un débat d'avant-premier tour, vous savez, c'est ces grandes soirées de TF1 ou de France 2 dans lesquelles il y a tous les candidats qui sont là et ils ont chacun quelques minutes de temps de parole pour parler, débattre entre eux et tout machin. Emmanuel Macron avait refusé de participer au débat avec tous les candidats en 2022. La raison à ça, elle est très cynique, mais c'est qu'Emmanuel Macron était en position de force dans les sondages. Emmanuel Macron n'avait pas besoin de gagner des voix. Tous les autres, oui. Donc Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il allait foutre dans cette émission si ce n'est perdre des plumes ? Donc il a décidé de ne pas participer, c'est tout. J'ai plus à perdre qu'à gagner, donc je vais pas faire ce plaisir-là à mes opposants. Je vais rester chez moi et je les emmerde. Moi, je fais partie des gens qui étaient déçus, parce que je me dis c'est quand même dommage de ne pas participer à un débat dans une démocratie. Mais bon, moi je suis pas un électeur de Macron, donc qu'est-ce qu'il en a à foutre de mon opinion, Macron ? Voilà. Morale de l'histoire, Macron a pas perdu un électeur, Macron a été au second tour, il a gagné face à Marine Le Pen, il a été réélu président. Preuve qu'à défaut d'avoir raison, il n'avait pas tort. Et d'ailleurs, non mais je continue sur la même lancée, je sais qu'on en a déjà parlé, mais je vous le redis. Si Jordan Bardella est donné à 35% d'intention de vote au premier tour, est-ce que vous croyez vraiment qu'il va participer à des débats ? Vous croyez vraiment qu'il va jouer à ça ? Surtout si on le dit faible en débat. Surtout si... Enfin, vous imaginez. T'arrives sur un plateau, t'as 11 professionnels de la politique qui ont un fusil braqué sur toi et qui n'ont qu'une envie, c'est de te fumer pendant tout le débat. Tu es la cible numéro 1 de toutes les critiques, de toutes les attaques, de toutes les boules puantes. Et tu peux pas en placer une. Essaye vraiment de te défendre, mais... Non, mais... Sans moi, les gars. Sans moi, les gars, je reste chez moi, allez vous faire foutre. Le débat du second tour, c'est pas obligatoire ? Non, bien sûr que non. Ah non, pas du tout. Le débat du second tour n'est pas obligatoire. Jacques Chirac avait refusé de faire un débat d'entre-deux tours en 2002. Quant au général de Gaulle, vous pensez bien que... Il était évidemment hors de question qu'il débatte avec François Mitterrand. Comment ? Vous voulez que je m'abaisse à la hauteur de ce petit roquet ? Et que je lui accorde... 2 minutes de mon attention ? Certainement pas. Voilà. Bon, c'est une autre époque. 1965, il y avait une ou deux chaînes de télévision à l'époque, pas plus. C'est autre chose. Je ne participerai pas à ce débat tant que l'extrême gauche est conviée. J'avoue. Non mais t'as raison, en vrai t'as raison. Jordan Bardella, il aura intérêt à sortir ce genre d'argument pour justifier le fait de pas y aller. Je refuse de participer à un débat au cours duquel se présentent des gens d'extrême gauche, proches des islamistes, antisémites. Il va trouver des trucs, il va... Non, mais t'inquiète, il va se dérober de cette manière-là. Et tous ses partisans diront « Ouais, t'as raison. Ouais, ouais, il a raison. Non, non, mais il a raison, faut pas y aller. » C'est le jeu. Comme ça. De toute façon, les débats, c'est de la merde. Non, pardon, j'ai été un peu rapide. Je n'aime pas les débats de premier tour des élections présidentielles. Voilà, c'est pas mon truc, ça me saoule. Ces espèces de grandes messes télévisées dans lesquelles on fout autour du plateau une palanquée de candidats qui n'ont que quelques minutes de temps de parole, qui ne font rien d'autre que s'attraper la veste les uns les autres. Je trouve que démocratiquement, on n'y gagne pas, qu'on n'apprend rien. Je préfère les interviews. Voilà, ça, j'aime bien. Les interviews d'un candidat à l'élection présidentielle, interviewé aux 20h de TF1 ou de France 2, prise de parole, les meetings, ça sert à quelque chose aussi, les meetings. Prise de parole dans des opérations, des réunions publiques, des trucs comme ça, c'est très bien. Le débat... C'est pas tout à fait pareil. Ce que je dis n'est pas tout à fait valable pour le débat d'entre deux tours. Là, t'es un contre un, face à face. C'est déjà un peu mieux. C'est pas le climax de la pensée critique et du débat démocratique. Mais bon, ça existe. Ça hype quand même les débats. Ça permet aux gens d'intéresser à l'élection, même si on n'apprend rien. Ouais, je suis d'accord avec toi, Elias, mais je sais pas... C'est quoi le spectacle qu'on offre, en fait ? C'est quoi le spectacle qu'on offre ? Des gens qui peuvent pas se piffrer, qui s'envoient des boules puantes, qui disent pas grand-chose sur le fond. Oui, si ça peut intéresser des gens à l'élection, tant mieux. Mais enfin bon, une élection présidentielle, normalement, on devrait pas avoir beaucoup besoin d'intéresser les gens. Mais je vois ce que tu veux dire, ouais. Ouais, je sais pas. Autre sujet, les copains, que je voulais aborder avec vous. Nouvelle proposition du président de la République, Emmanuel Macron. Alors non, attendez, avant ça, je vais faire un peu de pub. Regardez. Regardez, c'est Libération. Libération, le journal d'hier, édition avec sur la une, le livre de Gisèle Pellicot qui est sorti. Très très bon journal, hein, j'adore. Ah ouais, un super journal. J'étais en train de le lire tranquillement. Et là, d'un seul coup, je tourne une page et je tombe sur quoi ? Boum ! Libération, backseat, montée au front. Ça a de la gueule, non ? En pleine page. Grande soirée sur l'extrême droite, le 24 février de 19h à 22h, sur Twitch et sur place à Toulon. Notez dans vos agendas, 24 février, la semaine prochaine. Hein. Non, c'est pas la semaine prochaine, c'est dans 15 jours. Je crois que je vais l'encadrer. Faut que je trouve un cadre. Ouais. Donc voilà, on fait une émission en partenariat Backseat Libération, parce que Libération, je ne sais pas si vous le savez, ils ont un service qui s'appelle Frontal. Toute une bande de journalistes de Libération qui ne suit que l'extrême droite. Voilà, ça s'appelle Frontal. Ils ont une newsletter, ils ont une émission sur Twitch, sur la chaîne de Libé, ils travaillent, ils font plein de trucs et tout, spécialement sur la question de l'extrême droite. Et donc, on fait une émission en partenariat pour parler de l'extrême droite au niveau municipal, puisqu'on est dans les élections municipales, et on se rend à Toulon pour faire cette émission, parce que Toulon est une ville symbole de l'extrême droite municipale. Ça a été l'une des premières villes historiquement à basculer au Front National à l'époque, dans les années 90. Et là, c'est une ville qui est à deux doigts de rebasculer à l'extrême droite à l'occasion des élections municipales de 2026. Ce qui, du coup, ouvre la question de ça fait quoi l'extrême droite au niveau local ? Qu'est-ce qui change vraiment ? Et comment on peut se battre contre ça, qui sont les gens qui se battent sur le terrain. On va interviewer des gens, on aura des invités, on vous prépare tout ça. Voilà. Est-ce qu'il y aura aussi des partisans du RN dans le débat ? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Leur investigation sur ce terrain où il met ses sous était super. Ouais, ils ont fait un super boulot, Libé, là-dessus. Ouais, grave. Super important comme émission, merci d'organiser ça. On est très content de l'organiser cette émission, on est content de le faire en partenariat avec Frontal. Et ça va être chouette. Ouais, ça va être chouette. On est content de faire cette émission spéciale sur ce sujet-là. Et il y aura d'autres émissions spéciales qui arriveront sur Backseat. Ça va être cool. Quand est-ce qu'on connaîtra la peine de Marine Le Pen ? Le 7 juillet. Je répète, le 7 juillet. Je vais d'ailleurs de ce pas me mettre une alerte dans mon agenda. Même si à mon avis, ça ne sert pas à grand-chose parce qu'on en entendra parler la semaine d'avant. Condamnation. MLP. Hop. Ça ne ressemble à rien, mon agenda. Donc voilà, je disais, autre sujet sur lequel je voulais qu'on discute, une proposition d'Emmanuel Macron, président de la République. Emmanuel Macron a rendu hommage vendredi dernier, aujourd'hui d'ailleurs, c'était aujourd'hui, c'était ce matin, une cérémonie d'hommage qui a eu lieu à l'Élysée pour Ilan Halimi. Ilan Halimi, ce jeune homme qui a été assassiné, victime d'un enlèvement, d'une séquestration, de torture et d'un meurtre antisémite parce qu'il était juif. Et l'Élysée a planté un arbre du souvenir d'Ilan Halimi dans le jardin de l'Élysée. Et il y a eu une cérémonie avant ça pour parler du sujet. Et au cours de cette cérémonie d'hommage, Emmanuel Macron a prononcé un discours contre l'antisémitisme, évidemment, dans lequel il a fait une proposition. Dis donc, il a fait une proposition, je propose qu'on l'écoute.
Trop souvent encore, le caractère antisémite des délits comme des crimes peinent à être reconnus. Nous renforcerons la formation en ces matières de nos magistrats. Et pour faire la transparence et la vérité, je souhaite que soit mise en place un suivi précis des peines et des sanctions. Sur cette base, le gouvernement et le Parlement travailleront à un renforcement de la pénalisation des actes antisémites et racistes. Nos élus sont les sentinelles de la République et doivent le rester. La justice est saisie concernant les déclarations de certains d'entre eux et l'autorité judiciaire fait son travail en toute indépendance. Pour l'avenir, je souhaite qu'une peine d'inéligibilité obligatoire soit instaurée pour les actes et propos antisémites, racistes et discriminatoires.
Pardon, excusez-moi. Voilà la proposition d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, à l'occasion de cette cérémonie d'hommage à Ilan Halimi, a proposé la création d'une peine obligatoire d'inéligibilité pour les personnes condamnées pour racisme ou antisémitisme. Intéressant comme proposition, potentiellement dangereux comme proposition. Surtout, en fait, la vraie question que je me suis posée en écoutant cet extrait, c'est à qui il pense ? À qui il pense ? Parce qu'il y a Éric Zemmour qui vient d'être condamné la semaine dernière, à nouveau, pour incitation à la haine raciale. Bon, ça, d'accord, Éric Zemmour, ok. Mais y a-t-il d'autres personnalités dans la vie politique française qui sont poursuivies pour antisémitisme ou pour racisme ? J'ai bien dit poursuivi actuellement. Moi, je pense à la France Insoumise qui est accusée d'être antisémite par bon nombre de personnes. Est-ce que la France Insoumise est actuellement en procès ? Je crois pas. Hein. Non, je crois pas. C'est des accusations, j'allais dire des accusations en l'air contre la France Insoumise. Mais est-ce qu'ils sont traînés devant les tribunaux ? Est-ce que Rima Hassan ? Est-ce que je sais pas qui ? Jean-Luc Mélenchon ? Est-ce qu'ils sont visé par des enquêtes et des procès, je crois pas. Hein. Non, Chikirou, non. Rima Hassan, oui. Ah bon ? Bah, si t'as des infos, je suis preneur. Vous avez vu, maintenant, il y a les sondages qui s'affichent. Il y a les sondages qui s'affichent. C'est pas trop bien, ça ? Ben voilà. Je suis content, j'ai rajouté ça. Bon, faut que je change les couleurs parce que là, il n'y a rien qui va, mais on va travailler dessus. La prod de fou. Ah non, mais attends. Non, mais attends, c'est extraordinaire. Donc, ouais. Tu utilises quoi du coup pour afficher ça? J'utilise Twitch Chat. Pardon, c'est une discussion de nerd d'OBS et de streaming, mais j'utilise Twitch Chat. Ça marche bien. Donc voilà, donc bon, visiblement vous pensez, vous êtes nombreux et nombreuses à penser que la France insoumise est particulièrement visée. Encore une fois, je ne connais pas de procès en cours d'un insoumis qui serait traîné devant les tribunaux parce qu'on lui reprocherait des propos antisémites. Mais peut-être que ça viendra à l'avenir, hein, j'en sais rien. Pourquoi je disais tout à l'heure que c'est potentiellement dangereux cette idée ? Elle est séduisante, l'idée. Rendre inéligibles les gens racistes et antisémites. L'idée est séduisante et l'idée est potentiellement bonne. Là où je tique, c'est sur le caractère obligatoire de la peine. Une peine obligatoire, je vous rappelle, c'est une peine qu'un juge a l'obligation de prononcer si une personne est reconnue coupable de quelque chose. Il y a d'autres peines qui ne sont pas des peines obligatoires que le juge peut prononcer s'il estime que la peine est bonne. Une peine obligatoire, c'est pas une peine automatique. Ah ouais ? Alors, comment tu fais la différence entre les deux ? Du coup, t'as sûrement raison, mais du coup, je l'ai pas, là. Parce que pour moi, j'ai pensé à peine automatique, je pensais aux peines planchers, je pensais à ça. Mais une peine obligatoire, c'est quoi ? Si c'est pas une peine automatique ? Obligatoire, le juge peut décider de non au cas par cas, je crois. Ah oui, t'as raison. D'ailleurs, c'est le cas pour l'inéligibilité pour Marine Le Pen, tout ça. Alors effectivement, t'as les peines complémentaires que le juge peut décider souverainement d'appliquer ou pas. Tu as les peines obligatoires qui s'appliquent en principe, mais que le juge peut décider de ne pas appliquer en motivant sa décision. C'est-à-dire que le juge doit motiver sa décision. Et la peine automatique, elle, c'est une peine qui s'applique quoi qu'il se passe. C'était notamment le cas pour les peines planchers à l'époque de Rachida Dati, quand elle était ministre de la Justice sous Nicolas Sarkozy, qui avait fait voter un truc comme quoi les délinquants récidivistes se voyaient appliquer automatiquement des peines. C'était pas discutable, pas négociable. Tu récidives, tu y retournes, c'est comme ça, pas autrement. Bon. Bref, je suis pas fan de ça. Pourquoi je dis ça ? Parce que je vous ai toujours dit que l'inéligibilité, la peine d'inéligibilité, elle est séduisante, surtout quand elle s'applique à quelqu'un qu'on n'aime pas. Par exemple, Marine Le Pen. Ça fait plaisir de savoir qu'elle est inéligible, machin, parce que politiquement, ça nous arrange, etc., tout ça. La peine d'inéligibilité, elle nous dérange vachement plus quand ça touche quelqu'un qu'on aime bien. Merci Marion. Imaginez que Jean-Luc Mélenchon soit condamné à une peine d'inéligibilité avant la présidentielle. Je vous laisse imaginer les réactions dans le chat. Bah oui, c'est normal. Il y a quelque chose qui me gêne dans le fait de donner à la justice le pouvoir de soustraire des personnes au jeu politique et démocratique. Je trouve que la dérive est trop tentante. Je trouve que la dérive est... Enfin, pas tentante, mais elle est trop... Elle risque trop d'arriver, quoi. Pourquoi Jean-Luc serait inéligible au hasard pour détournement de fonds publics au Parlement européen, puisqu'il y a une instruction judiciaire qui est ouverte ? Une information judiciaire, pardon. Je sais pas, on verra bien. Mais non, je sais pas, je suis partagé, voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Je sais pas, je suis partagé. Parce que je trouve que l'inéligibilité est une peine qu'il faut manier avec parcimonie et avec prudence. Je trouve ça trop dangereux pour la démocratie de créer des mécanismes, certes juridiques, mais mécanismes quand même, qui permettent d'éjecter quelqu'un du jeu. Ouais, je sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que j'essaye de dire? Disons que les dérives sont trop dangereuses et trop grandes. Je vous rappelle, pour celles et ceux qui ne le savent pas, que Vladimir Poutine, il adore ça. Il adore l'inéligibilité. Parce que ça lui permet, depuis 20 ans, d'éjecter ses opposants de toutes les élections. Navalny, par exemple, à peu près n'importe qui, quand t'as une justice plus ou moins aux ordres, tu lui colles un procès, tu te démerdes pour qu'il soit condamné, et hop, tiens, comme par magie, il peut plus être candidat. Pratique. Pratique, pratique, pratique. Donc ouais, je remets pas en cause la décision des juges et des magistrats que j'estime impartiale et je sais qu'ils font leur travail et qu'ils le font bien. Je pense que ce n'est pas rendre service aux juges. Merci Stormlord. Je pense que ce n'est pas rendre service aux juges que de les transformer en juges de l'acceptable dans le champ démocratique. Je pense, et ça revient à la discussion qu'on avait tout à l'heure sur les peines, que les personnalités politiques peuvent se prendre dans la gueule parfois, les condamnations, les affaires, etc. Je souhaite, peut-être naïvement, qu'à l'avenir, ce soit la condamnation qui suffise à rendre impossible une candidature, simplement parce que la personne est cancel, en fait, parce que c'est dégueulasse ce qu'elle a fait. J'aimerais vivre dans un pays dans lequel c'est ça le réflexe premier des électeurs, c'est de se dire, non mais je peux pas voter pour un mec qui a été condamné, surtout pour ce genre de truc, machin. Bon, ça c'est mon point de vue naïf de démocrate. Le monde réel dans lequel je vis, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'il y a quand même un paquet de gens qui n'ont rien à foutre de la condamnation de leur champion. Voilà. Et qu'il y en a même qui se font élire. On l'a vu aux États-Unis. Enfin, pardon, mais Donald Trump a été réélu président alors qu'il a littéralement tenté de faire un coup d'État. Et il y a plein d'électeurs LR, oui, tu me diras, oui, républicains américains, qui n'ont pas vu le problème. Ils se sont dit, je vois pas où est le souci. Jurisprudence Levallois. Ouais, jurisprudence Levallois. Patrick Balkany a été réélu député maire de Levallois malgré les affaires. Donc qu'est-ce qu'on fait? Voilà, tout ça, je vous ai livré un petit peu mes états d'âme. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Est-ce qu'on se dit que c'est une bonne chose de créer une peine d'inéligibilité automatique pour des délits graves d'antisémitisme et de racisme? Il y a beaucoup de choses chez moi qui ont envie de soutenir cette proposition-là. Ou est-ce qu'on se dit que c'est mettre le pied dans la porte, enfin c'est ouvrir la porte d'un truc qui est potentiellement assez dangereux, quoi. Je sais pas. Apparemment, depuis 2017, si on est condamné pour toute forme de discrimination, c'est assorti d'une peine obligatoire d'inéligibilité. Ah ouais? Non mais, non mais si c'est vrai, c'est marrant, parce que ça veut dire que depuis tout à l'heure, on discute d'un truc qui existe déjà. Ça veut dire que Macron vient de proposer un truc qui est déjà dans le code pénal, quoi. Non mais, ça... ouais, mais, non, mais très... non mais la discussion est intéressante quand même. Elle aura servi à rien, mais... serait pas la première fois. C'est vrai. Non, c'est vrai, vous avez raison. Encore une fois, avec tous les gens comme Yadan qui essayent de faire mélanger antisionisme et antisémitisme, c'est ultra dangereux. Ouais, en plus. Oui, en plus, t'as raison. En soi, ce serait bien que si tu as un casier judiciaire, tu sois inéligible. Mais vas-y, comment ça peut être instrumentalisé derrière pour empêcher des opposants politiques? Exactement. Exactement. Tu résumes le problème. Dans l'idée, ce serait bien que quelqu'un qui a un casier judiciaire ne soit pas éligible. Mais en pratique, c'est un enfer. C'est extrêmement dangereux. Vous vous rendez compte la facilité avec laquelle on pourrait dégager des opposants politiques ? Non. Non, c'est pas sérieux. On peut pas se permettre ça. En Russie, peut-être, mais pas en France. Si la justice est indépendante, elle ne condamne pas par choix politique. Non, elle condamne pas par choix politique. Les jugements sont motivés en droit. Et le droit peut être politique. Bah, le droit, c'est le langage de programmation du politique. C'est à ça que ça sert. Depuis toujours, d'ailleurs. Il n'y a pas de limite de durée ? Si. Une peine d'inéligibilité est assortie d'une durée. À ma connaissance, il n'y a pas de peine d'inéligibilité à perpétuité. Ça n'existe pas. Non, heureusement. Non, tu déclares une personne inéligible pendant une période de... Et là, je ne sais pas ce que prévoit le code pénal ou le code civil. T'as suivi l'histoire, hein? Il faut un B2 vierge pour tout travail en présence d'enfants. Pour les accompagnateurs scolaires en milieu défavorisé, c'est un enfer. Bah ça... Ouais. C'est pas la première fois. Je sais pas si vous souvenez de cette dinguerie, mais c'est vraiment la connerie. La droite, je crois que c'était au Conseil régional d'Île-de-France, ils avaient mis en place une clause qui s'appelait la clause Molière. Clause Molière, ok? Et ils avaient dit, et la clause Molière, ça voulait dire que parler la langue française est obligatoire sur le terrain, dans le travail. Et cette clause s'appliquait à tous les contrats de travail passés par la région pour tout et rien. Il faut parler français et la langue française doit être la langue d'usage par les gens qui bossent. En 6 mois, la région s'était rendu compte que c'était devenu impossible d'embaucher des vigiles, d'embaucher des gens pour faire des chantiers, bref, des cuistots et tout. Enfin, tu vois, juste des gens normaux, en fait. Et c'est vraiment la connerie de ce genre de clause où tu te dis « Ah ouais, ce serait bien ouais, que les gens ils parlent français sur les chantiers, mais connards, les gens ils parlent la langue qu'ils veulent sur les chantiers, on s'en branle. Donc ils sont en sécurité, c'est ça qui compte. » Et c'était le cas, je crois que c'était le cas pour les services de sécurité pendant les Jeux Olympiques. On avait dit, on va embaucher un nombre incalculable d'agents de sécurité, on leur dit, ah, par contre, il faut parler français. Bah, et comme par hasard, t'as moins de candidatures. Bah oui. Et du coup, ils n'arrivaient pas à embaucher. Du coup, ils ont dû changer la règle en urgence pour réouvrir des postes, pour dire, venez bosser, on a besoin de vous. Non mais putain... Je vois bien le genre de problème que ça peut poser. T'imagines les devs, on demande aux devs de parler français et de coder en français. C'est fini le if then. Ça se transforme en si et alors. Voilà, allez hop, vous tapez avec votre clavier, je ne veux pas le savoir. Non, ça suffit maintenant les anglicismes, hein. On est en France ici. Allez les devs. Je vais te mettre tout ça d'équerre, moi, tu vas voir. Ah mais depuis que j'ai regardé la déclaration de candidature de Bruno Retailleau, je me sens requinqué là. Allez hop. C'est Microsoft ou Drive qui traduit les fonctions en dépendant de la langue. Alors déjà, on ne dit pas Microsoft, on dit petit logiciel, et on ne dit pas Drive, on dit conduire. Quel enfer. Le cauchemar. Ça n'a pas encore commencé, ça m'énerve déjà. Stop. Non, non, je vais pas m'arrêter. Hein. Je sais que les devs, ça va les énerver. C'est pour ça que je le fais. C'est parce que je vous aime. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? On fait une FAQ, mesdames et messieurs, politique. Avant de faire une FAQ, je vais faire une page de pub parce que vous savez que je suis sponsorisé par la Brigade de Véro, dis donc. Je suis sponsorisé par la Brigade de Véro. Hop là, la Brigade de Véro qui me fait bouffer. Si vous avez envie de manger la même chose que moi tous les jours, vous pouvez choisir la Brigade de Véro, sachant que vous avez 50% de réduction sur votre première commande avec le code promo Jean Massier. Et j'ai calculé, si vous prenez la plus petite commande possible, vous en avez pour 30 euros seulement avec le code promo. Du coup, ça vous permet juste de découvrir la Brigade, de voir si vous kiffez ou pas. La Brigade de Véro, c'est un service qui livre des repas à domicile dans un colis frais. Moi, je reçois chaque semaine un colis. Je mange la Brigade de Véro. Hein. Chaque semaine, je reçois un produit frais et un colis frais, pardon, dans lequel j'ai mes plats pour la semaine. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Je vais vous montrer ce que j'ai à bouffer dans mon frigo. Comme ça, vous verrez à quoi ça ressemble. Hop. Hop. Alors, j'ai pas tout pris parce qu'il me reste encore plein de, il m'en reste encore plein. Émincé de dinde, ragoût de légumes d'hiver et son lit de blé. Ça va être vachement bon. Parmentier de bœuf aux tomates séchées à la ricotta. Sublime. Crumble de colin aux épinards, amandes et grand padano. Grana padano. Je sais pas ce que c'est le grana padano. Il y en a qui savent. Gratin paysan au petit épeautre du Ventoux chèvre et miel. Ils savent me parler. Spaghetti bolognaise, meilleur plat du monde. C'est du parmesan, le grana padano. C'est du parmesan. Ok, merci. Je suis nul en cuisine. Tagliatelle complète à la crème de saumon et au poireau. Donc voilà. Vous avez qu'à cliquer sur le lien qui est dans le chat !Véro et vous allez vous retrouver. Hop, vous allez vous retrouver sur le site de la Brigade de Véro. N'hésitez pas à checker un petit peu les différentes formules qui sont proposées. Ça dépend de ce que vous aimez. Ça dépend de vos objectifs. Si vous voulez perdre du poids, si vous voulez perdre du poids et avoir des bienfaits en plus, ou si vous voulez seulement manger au quotidien. Moi, j'ai cliqué là-dessus. Hein. Seulement manger au quotidien. Je ne cherche pas à perdre du poids. Quotidien classique, VG, protéiné, gourmet. Vous choisissez votre formule. Vous composez votre formule aussi pour configurer ce que vous voulez avoir. Par exemple, si vous prenez la plus petite, vous prenez un plat par jour. Nombre de jours, 5 jours. Durée de l'engagement, ça on verra. Ah non, mais c'est où le truc où tu peux retirer tes... Ah non, tu choisis un dessert, une entrée. Je veux ni l'un ni l'autre. Bref, tu peux choisir d'avoir des desserts ou pas, ou des entrées. Enfin bref, vous choisissez, vous composez votre formule. N'hésitez pas à tester. Et d'ailleurs, j'ai un truc très cool, c'est que la Brigade de Véro, ils m'ont filé une API pour que je puisse voir qui a commandé avec le code promo Jean Massier. Du coup, je vais vous remercier nominativement. Merci les personnes qui ont pris la Brigade de Véro. Merci Karine, Brice, Simon, Kevin, Florian, Louis, Simon, Michael, Laura, Laurent. Maxime, Erwin, Benoît, Camille, Loïc, Carole, Adrien, Rudy, David, Clément, Maxime, Élise, Jessie, Ibanez, Ronan, Florian et Coralie. Merci les copains. Je n'ai que vos prénoms, hein. Je suis au courant de rien. mais c'est cool qu'ils me filent les prénoms pour que je puisse vous remercier nominativement. D'ailleurs, il y a une alerte sur mon stream si jamais vous commandez avec le code promo Jean Massier. N'hésitez pas. Donc voilà, quoi vous dire de plus? N'hésitez pas à tester la brigade de Véro, vous verrez, c'est très bon. Moi, j'aime bien. C'est que nos prénoms et la dernière fois qu'on a eu un rapport. Oui. Oui. J'ai ces informations, mais je ne les dis pas. C'est pas très RGPD. Tu cuisines jamais? Ah, moi, je déteste cuisiner, ça me saoule. Non, je te jure. J'ai pas le temps. Je dois écouter Bruno Retailleau sur LCI. Attendez, je vais remettre tout ça dans le frigo parce que après, ça va. Voilà. Pardon, de retour. Fin de la page promo, sauf si vous avez des questions évidemment à me poser, je vous répondrai avec plaisir. Tchoum. Donc, il y avait pas mal de questions. Ah ! Il y avait des questions ? Est-ce que c'est que sur la métropole ? À ma connaissance, c'est que sur la métropole, mais pas en Corse. Parce que livrer un colis frais en Corse, ça coûte 40 balles, je crois. Mais partout en métropole, vous pouvez avoir la brigade de Véro, ouais. Est-ce qu'on peut payer avec une carte resto ? Oui. Ils m'ont dit oui, on peut payer avec une carte resto. Il y a quoi d'autre comme question ? Je sais pas, je scroll un peu, je check, mais... Non, j'en vois pas d'autres. Il livre en Belgique aussi. Luxembourg aussi, je crois. Est-ce qu'on a la traçabilité sur le produit ? Je crois que c'est obligatoire, oui. J'ai pas vérifié sur l'étiquette, mais je crois, ouais. La grande majorité des questions que vous vous posez, vous trouverez normalement la réponse sur le site internet de la brigade de Véro. Ça, quelque part, il y a l'info. Si je l'ai, je veux bien vous la donner l'info, mais si je l'ai pas, par contre, je suis désolé, je vais être obligé de vous renvoyer vers le site. Tchoum. Est-ce qu'il y a un menu Union de la Gauche ? Non. Quand est-ce que je fais un mukbang ? Jamais. Tu fais pas à manger ? Non, je fais pas à manger, ça me saoule. C'est à réchauffer au micro-ondes ? Oui, c'est à réchauffer au micro-ondes. Pardon, j'ai raté plein de questions. Alors... Fin de la page promo. Je vous en reparlerai à peu près une fois par semaine, je pense, de la brigade de Véro. Fin de la page promo. Si vous voulez, on fait une FAQ politique. On fait une FAQ politique. Si vous avez des questions que vous vous posez sur la politique, son fonctionnement, ses acteurs, la présidentielle, les municipales, je sais pas quoi, j'y réponds avec plaisir, les copains. Et puis on discute, voilà, tranquille. Hop, 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 hop. Je regarde les trucs dans l'actu. Est-ce que t'as parlé du Discord ? Non, j'ai pas parlé du Discord. J'ai un Discord, mesdames et messieurs. Alors, c'est vrai que j'en parle jamais, mais j'ai un Discord. Voilà, il y a un serveur Discord Jean Massier qui marche bien. Il y a des modos trop cool dessus qui s'en occupent. Il y a des discussions tard le soir sur de la politique ou sur autre chose. N'hésitez pas à découvrir le Discord. Point d'exclamation Discord. Rejoignez le Discord, voilà. Vous verrez, c'est cool. Et une bonne ambiance. Est-ce que tu penses que Zemmour va se présenter ? Oui. Oui, je pense qu'Éric Zemmour va se présenter. Et s'il ne se présente pas, ce sera Sarah Knafou à sa place. Ouais, je pense. Je pense. J'ai du mal à imaginer qu'Éric Zemmour jette l'éponge alors qu'il a réussi à faire 7% à la dernière présidentielle et qu'il a sûrement envie de faire mieux, quoi. Qui ou quand se déclenche une CMP lors de l'examen d'une loi ? Une commission mixte paritaire, elle est déclenchée après un ou deux allers-retours du texte de loi entre l'Assemblée nationale et le Sénat sur décision du gouvernement. C'est le Premier ministre qui déclenche la CMP. Tu penses pas qu'ils privilégieront Knafou à la place de Zemmour ? Mais vous savez, c'est une décision très personnelle de la part d'Éric Zemmour lui-même. Hein. Je ne suis pas persuadé qu'Éric Zemmour ait envie de laisser la place à quelqu'un d'autre, sous prétexte qu'elle est jugée plus forte ou plus je sais pas quoi. Merci Mathieu pour ta commande à la brigade de Véro. T'as bien raison. Merci Vincent. Dans une petite commune avec une seule liste, montrer son désaccord avec la municipalité sortante en votant blanc a-t-il un intérêt ? Ou vaut mieux ne pas aller voter ? C'est à toi de décider, j'en sais rien. Si tu vas pas voter, personne s'en rendra compte. Si tu votes blanc, on se rendra compte que quelqu'un a voté blanc. Est-ce que ça va changer quoi que ce soit ? On entend souvent certains partis attaquer le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel. Quelle procédure pourrait être utilisée pour se débarrasser de ces institutions ? Réviser la Constitution. Réviser la Constitution. Mais techniquement, tu peux réviser la Constitution et faire ce que tu veux dedans. Hein. C'est... Oui, il faut changer la Constitution. Si tu veux supprimer une institution... C'est quoi une commission mixte paritaire du coup ? Une commission mixte paritaire, c'est une réunion de négociation entre les députés et les sénateurs pour essayer une bonne fois pour toutes de se mettre d'accord sur une version commune d'un texte de loi. Donc on met 7 députés, 7 sénateurs dans la salle, ils négocient, ils discutent sur les derniers points de désaccord qui subsistent. Soit ils arrivent à trouver une solution, un compromis, auquel cas on dit que la CMP est conclusive, et la loi est votée une bonne fois pour toutes à l'Assemblée et au Sénat, soit la CMP n'est pas conclusive et la loi est votée en dernier ressort par l'Assemblée nationale, sur décision du Premier ministre. Comment on choisit les membres d'une CMP ? La composition d'une CMP... Comment ils sont choisis, les bonhommes, déjà ? Je sais plus. J'arrive pas à retrouver. T'as une explication très longue sur le site du Sénat. Mais en gros, les députés et les sénateurs sont à l'équilibre de ce que représentent les forces en présence à l'Assemblée et au Sénat. C'est un peu comme une commission. Tu penses quoi des élections étudiantes? Mais c'est trop bien les élections étudiantes, c'est hyper important, c'est nécessaire. Les étudiants sont pas au courant que ça existe et les étudiants savent pas à quoi ça sert. Il y a un taux d'abstention qui est absolument stratosphérique pour les élections étudiantes et c'est un vrai problème. Parce que on n'imagine pas une université dans laquelle il y aurait aucun étudiant qui n'aurait son mot à dire dans les décisions de fonctionnement de l'université. Pour ce qui concerne la vie étudiante, mais aussi la vie académique. Donc voilà, il faut voter aux élections étudiantes. Mais je crois que tu as 95% d'abstention, ouais, aux élections étudiantes. Merci Baptiste. Merci Baptiste pour ta commande. Dis donc, bon appétit. Il existe aussi des élections professionnelles. Par ailleurs, il existe aussi des élections professionnelles. Oui, tu as raison. Non, mais toutes les élections sont importantes. Enfin, voilà. Informez-vous et mobilisez-vous pour les processus électoraux qui vous concernent, que ce soit à l'université, au travail, dans la vie citoyenne. C'est important. Pourquoi autant d'abstention dans les démocraties alors que dans ce qu'on appelle les dictatures, il y a le plus de participation? C'est une bonne raison, c'est une bonne question. À cause de la torture, sans doute, je sais pas, ça doit aider. Est-ce que tu étais élu étudiant? Moi, non, jamais. Non, 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 non. Non, non, j'étais dans l'associatif, moi. Moi, je faisais partie d'AnimaFac, donc les élections étudiantes, c'était pas notre truc. C'est pas bien de le dire comme ça, mais c'était un peu l'idée. Est-ce que tu connais un peu le système politique suisse? Non, pas dans le détail. Je sais que le système politique suisse fait rêver plein de gens en France qui ne le connaissent pas non plus dans le détail, notamment parce qu'il y a l'organisation de référendums réguliers ou de participation directe des citoyens, et que ça fait fantasmer plein de gens avec un espèce de biais d'exoticité assez important, biais d'exotisme assez important. Tu t'es déjà présenté comme délégué de classe? Je crois, ouais. J'en ai pas beaucoup de souvenirs, je sais plus. Pour ou contre le vote obligatoire si le vote blanc est comptabilisé? Contre. C'est mon opinion, hein, mais on peut être en désaccord, il n'y a pas de souci. Peut-être que les gens ne votent plus assez parce qu'ils votent depuis 50 ans et que rien ne change et que c'est toujours les mêmes qui gagnent. Merci Clément Clément. Si tu veux, oui, si tu veux. Il faut vraiment que tu tiennes, hein, parce que dire qu'il n'y a rien qui a changé en 50 ans, c'est quand même un peu paresseux. Pour ou contre les questions, pour ou contre? Contre. Fais-moi la paix. On s'en fout de mon opinion. Mon opinion, elle sert à rien. Elle n'est pas intéressante. Elle n'est pas meilleure qu'une autre. Je fais pas ça pour ça. Putain, vous êtes con. On peut même dire que depuis 50 ans, c'est la même caste qui gouverne. Oui, alors si par honnêteté, il faudrait qu'on dise que ça fait plus de 200 ans. Je veux dire, quitte à faire de l'à peu près, allez-y à fond. Moi, je veux bien, hein, mais... Est-ce que tu as déjà été approché par des formations politiques pour t'encarter? Oui. Oui. Mais c'est pas. Enfin, faut pas que vous voyez ça comme une espèce de gens qui t'approchent comme ça un peu discrètement, qui prennent un rendez-vous le soir sur un parking, à l'abri des regards pour te susurrer une proposition. Non, c'est juste des gens que je connais, avec qui on papote et qui, au détour d'une conversation, me disent: Et au fait, toi, ça t'y as déjà pensé? Ça te dirait? Et je réponds: Bah non. Et voilà, fin de la discussion, tu vois, et on reste potes et tout se passe bien, et voilà quoi. Est-ce que tu pourrais développer des arguments autour de la question du vote obligatoire? Le pour et le contre, c'est un sujet que je ne maîtrise pas du tout. Pour te faire la version simple, nos démocraties représentatives ont un problème d'abstention. Il y a des gens qui ne participent pas au vote. L'idée un peu courte et spontanée qui peut te venir en tête, c'est de te dire: Tiens, et si on interdisait aux gens de faire ça? Voilà, ça s'appelle le vote obligatoire. Ça consiste à tordre le bras des gens pour les forcer légalement, sous peine d'amende, de participer à un processus auquel ils ne veulent pas participer. Donc c'est une manière de se mentir à nous-mêmes, collectivement, en se disant: Hé, vous avez vu le taux de participation? On a une démocratie qui marche bien maintenant. Non, on a juste interdit aux gens de s'abstenir. Juste, on a décidé de se mentir. On a tordu le thermomètre pour avoir la température qui nous convient. Juste, c'est absurde. Et tu ajoutes à ça le fait que tu ajoutes à ça le fait que les gens qui s'abstiennent le plus, ce sont les pauvres. On connaît le profil des abstentionnistes en France, hein. Les gens les plus éloignés de la politique sont les personnes qui ont le moins de capital économique et culturel. Les gens qui ont fait le moins d'études et les gens qui galèrent le plus, les plus précaires. Rendre le vote obligatoire, c'est juste mettre une amende sur la pauvreté. Une amende de plus, si je puis ajouter. Voilà. Donc, si vous voulez coller des prunes aux pauvres, allez-y, ce sera sans moi. Si vous voulez vous dire que ce serait une bonne chose, bah dites-le vous, mais ce sera sans moi. Sinon, au lieu de mettre des prunes, pourquoi ne pas payer les gens qui votent? Moi, c'est une idée que je trouve pas mal. Il faudrait y réfléchir, il faudrait discuter des modalités, du montant et tout. Il y a beaucoup de débats à avoir. Mais l'idée de se dire que la République fait l'effort d'encourager le comportement citoyen, why not? Voilà. Et puis ça peut passer par une petite rémunération, ça peut passer par des choses symboliques, ça peut passer par des facilitations diverses et variées. Il faut imaginer peut-être plein de mécanismes qui ramène les gens vers les... Enfin, qui incite les gens à revenir vers les bureaux de vote. Mais s'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Moi, ça me paraît important aussi que les gens qui n'ont pas envie de participer puissent ne pas participer. C'est obligatoire pour personne. On vous force pas, on vous tord pas le bras. On vous explique à quoi ça sert. C'est pour ça aussi que je fais ma chaîne, hein. C'est pour expliquer à quoi ça sert. On vous informe. on vous montre les candidats, vous êtes séduit, pas séduit, c'est votre problème. Et ensuite, vous votez pas, c'est votre problème. C'est un peu ça ma philosophie à moi. Si on n'est pas intéressé, pourquoi ne pas juste voter blanc ? Bah votez blanc. Qui vous en empêche, faites ce que vous voulez. Allez-y. À titre personnel, je vois pas très bien l'intérêt de mettre des chaussures pour aller au bureau de vote et voter blanc. Mais si c'est votre truc, allez-y, faites ce que vous voulez. Mettez un bulletin dans l'urne sur lequel il n'y a rien écrit. Encore une fois, vous êtes libre. Le vote obligatoire entraîne forcément une sanction en plus. Bah oui, c'est, en général, c'est une amende. Après, ça peut être des tracasseries administratives. Nos amis belges, je ne sais pas si vous êtes au courant, hein, mais pendant que nous, en France, on est en train d'avoir ce débat débile pour savoir s'il faut obliger les gens à voter ou pas, nos amis belges sont en train d'avoir un débat pour savoir s'il faut arrêter le vote obligatoire ou pas. Ça fait des années en Belgique qu'il y a plein de gens qui se disent « faut arrêter cette connerie, ça ne marche pas ». Ça ne marche pas, vraiment. Les Belges ne sont pas plus satisfaits de leur vie démocratique qu'avant, hein, maintenant qu'ils ont le vote obligatoire. Et en plus, les tribunaux belges ne poursuivent pas les gens qui ne votent pas. Elle n'est pas choucarde, celle-là ? On est au sommet de l'hypocrisie collective. On crée un vote obligatoire et on crée un système qui ne poursuivra personne s'il ne vote pas. Tu n'auras pas d'amende, en fait. Donc comme ça, les gens qui sont pour le vote obligatoire, ils sont contents, parce qu'ils ont leur vote obligatoire. Et les gens qui sont contre le vote obligatoire, ils sont contents, parce qu'ils votent pas. Et il leur arrive rien. Voilà, ça s'appelle le système belge. Est-ce que tu penses qu'on devrait donner plus d'importance au vote blanc ? Genre le comptabiliser avec un vrai poids au lieu de juste l'ignorer à chaque élection. Je vois pas pourquoi on donnerait plus de poids à un vote blanc qu'à un vote qui exprime un choix. Déjà, pour commencer, je trouve ça profondément scandaleux de se dire qu'une élection pourrait être par exemple annulée sous prétexte que des gens ont voté blanc. Je trouve ça fou. Par contre, il y a un truc que moi je propose, c'est qu'on rende le vote facultatif. Par exemple, pour une élection municipale, on dit aux gens... Vous avez le choix entre des candidats, des listes de candidats, hein, des gens qui habitent votre ville, des gens qui vivent ici, qui sont vos voisins, vos amis, machin. Ces gens-là se proposent pour diriger la ville. Vous pouvez voter pour eux si vous voulez, ou choisissez la liste que vous préférez. Et puis on vous met un autre bulletin à côté, qu'on appellera le bulletin blanc si on veut, qui dit que si ce bulletin-là est majoritaire, alors la ville n'est plus gérée démocratiquement à partir de maintenant. On passe sous administration préfectorale. Merci Charlie. Voilà, vous êtes libre, vous choisissez, c'est votre ville. Si vous voulez pas que les décisions qui vous concernent soient prises par des gens que vous avez choisis, ben c'est pas grave. On va nommer un administrateur, un mec qui répond au préfet, et ben c'est lui qui dirige la ville à partir de maintenant. Il n'y a plus de conseil municipal, il n'y a plus de délibération, il n'y a plus de... Non, vous n'avez pas voulu. On va pas vous forcer, hein. C'est pas grave. Ben ciao la démocratie, en fait. Puis on se donne rendez-vous dans 5 ans, une fois qu'un administrateur aura dirigé la ville pendant 5 ans, et vous prendrez une décision. Voilà. C'est un peu ça le caractère facultatif de la démocratie. Si ça vous plaît pas la démocratie, bah faites pas de démocratie. Hein. À l'ancienne. Hein. Il y a des gens qui sont morts pour qu'on vive en démocratie, bah peut-être qu'ils se sont trompés. Hein. Peut-être qu'en fait, ce qu'on veut, c'est être dirigé par des administrateurs. Hein. Ok. Merci, Orbelio. Donc en fait, ça a toujours été le problème que j'ai avec les gens qui fantasment le vote blanc, c'est que si vous mettiez votre énergie à vous battre pour améliorer la démocratie, peut-être qu'il n'y aurait pas besoin de vote blanc en fait. Peut-être on pourrait avoir des candidats désirables et des listes de candidatures désirables dans les élections locales. C'est peut-être ça l'enjeu. Alors c'est peut-être plus difficile, c'est peut-être moins démago, mais c'est peut-être ça le truc qu'il faut faire. Mettre de l'énergie dans le vote blanc, on y met réellement de l'énergie. Non, toi, non, mais il y en a. Il y a des gens que j'entends qui sont littéralement des militants du vote blanc. Et pour eux, c'est l'alpha et l'oméga de l'amélioration de la vie politique française, c'est la comptabilisation des bulletins blancs, en admettant qu'il y ait plus de 5% de bulletins blancs. Parce que là, toute la discussion qu'on a depuis tout à l'heure suppose qu'il y ait des bulletins blancs dans les urnes. Je ne sais pas si vous avez déjà une fois dépouillé une élection. Les bulletins blancs, c'est 1 à 2%. Hein. Des bulletins, et encore. Donc de là à ce qu'un jour ça devienne majoritaire. Si le bulletin blanc ne sert à rien, c'est logique de ne pas en avoir beaucoup aussi. Ben oui, puisque le bulletin blanc ne sert à rien. Donc les gens qui font l'effort d'aller voter, ils viennent exprimer une position. C'est rare les gens qui se mettent derrière un micro pour ne rien dire. Bon. Le vote blanc est une position. Oui. Le silence est une parole aussi. Oui. Voilà. Encore une fois, je reviens sur le côté personne n'est obligé de parler. Moi, je tiens à cette liberté citoyenne. Vous n'êtes pas obligé de mettre un bulletin dans l'urne. C'est comme dire « ne se prononce pas ». Vous avez le droit de cliquer sur « ne se prononce pas » dans un sondage. « Ne prononce pas ». Personne n'a le droit de vous mettre dans la bouche des trucs que vous n'avez pas dit. Vous avez choisi de ne rien dire. Sur les machines à voter existantes, dans quelques communes, ouais, il y a un bouton blanc. Ouais, absolument. Sur les machines à voter, il y a un bouton blanc. Ouais. Comment tu fais ton histoire d'administrateur au niveau national ? Bah c'est... On fait comme avec la loi spéciale sur le budget, on reconduit le président précédent pendant 5 ans, avec interdiction de changer de politique. comme un régulateur de vitesse, tu vois. Ah bah non, on a décidé qu'on changeait rien. Parce qu'on voulait, on voulait pas le changement, visiblement, puisqu'on a voté blanc. Donc on va continuer sur la même, droit, sur la même ligne. Ouais. Pour moi, le vote blanc, c'est pas se taire, c'est dire je ne me sens représenté par personne. Ça veut pas dire que personne ne doit prendre la tête du pays, mais juste ma vision n'est pas représentée. Mais ça, c'est toi qui dis ça. Bah, t'as le droit de donner un sens à ton bulletin blanc, si tu le souhaites. Mais c'est ton sens. Moi, je vois une feuille blanche, je me permets pas d'en déterminer qu'elle dit quelque chose. C'est une feuille blanche. Y a rien écrit dessus. C'est... Bon. Bah, très bien. Enfin, Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous devant un tribunal. Quand on n'est pas représenté, il est préférable de s'abstenir. Vous faites ce que vous voulez. Vraiment, vous faites ce que vous voulez. Moi, j'ai rien à vous dire. Je ne veux pas avoir un discours prescriptif. Vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez rester dans un coin à bouder en disant « Bouh, elle est nulle, la démocratie, elle ne me représente pas. » Vous pouvez aussi vous engager. Vous pouvez aussi prendre la décision de rejoindre un collectif, quel qu'il soit, associatif, syndical, politique. Tenter de peser pour faire changer les choses. Voilà. Mais c'est-à-dire qu'en fait, la colère qu'on peut ressentir contre une classe politique ou contre une caste politique ne peut pas trouver sa traduction dans un mécanisme magique qui viendrait solutionner le problème. S'il y a bien un truc que des années de droit constitutionnel m'ont appris, c'est qu'il n'y a pas de bouton magique à une situation vécue difficilement. Il n'y a que des processus lents, longs et difficiles qui soutiennent et qui sous-entendent l'action citoyenne. Et ça prend du temps. Et c'est compliqué. Tu mens, balance ton bouton magique. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, l'idée de dire je voudrais que mon absence de prise de parole soit entendue, que je voudrais que mon mutisme soit vocal, en fait, il n'y a pas. Il n'y a pas de solution qui rend possible ça. Tu peux déjà manifester pour exprimer ton désaccord. Oui, tu peux manifester ou ne pas manifester, mais oui, tu peux rejoindre, encore une fois, des mouvements, des mobilisations, des organisations. Tu peux t'exprimer librement, tu peux créer du contenu sur Internet, tu peux publier librement des journaux, des tracts, ce que tu veux. Il existe beaucoup de manières de s'engager. Comment exprimer « rien ne me convient » Ou plutôt, comment différencier ce mutisme du mustisme de m'en fous, et considères-tu que cette information est pertinente ? Non mais, tu ne peux pas ne pas ouvrir la bouche et attendre de la personne en face de toi qu'elle comprenne un message. Si tu es libre de garder le silence, mais ton silence restera un silence. Et rien d'autre. Et ce serait malhonnête de te mettre des intentions que tu n'as pas voulu exprimer, parce que c'est ton droit. Voilà, donc, si tu veux exprimer « rien ne me convient », engage-toi, présente-toi, fais mieux, comme disait un grand homme. Faites mieux. Un bulletin blanc, ça ne peut être qu'un bulletin blanc. Ça exprime une volonté de ne pas s'exprimer. Et ça n'exprime que ça. Ensuite, les raisons pour lesquelles on veut pas, c'est que ça, c'est autre chose. Ça appartient à autre chose. C'est quoi ton opinion sur le vote numérique ? Ça pourrait encourager certaines personnes à voter. Moi, j'ai toujours été favorable au vote numérique, au vote par Internet en l'occurrence. Il existe déjà, je vous le rappelle, le vote par Internet. C'est pas une invention, c'est pas un truc fantasmatique et tout. Ça existe déjà en France pour les élections étudiantes, pour les élections professionnelles, pour les élections des Français de l'étranger. Quand même trois élections qui sont faites avec ce mode-là. Et je pense qu'on pourrait expérimenter de le développer au niveau local. Que ça ferait du bien, en fait, d'avoir une démocratie participative au niveau local. On pourrait commencer par ça. Merci Ziggyxol. C'est vécu par beaucoup comme une manière de silencier. Les gens sont pas tout le temps ou l'envie de faire de la politique et c'est pas l'engagement qui devrait conditionner le droit au sentiment et au ras-le-bol. Là où t'as raison, c'est qu'il n'y a pas de solution toute faite, rien n'est parfait. Non mais c'est ça. C'est très insatisfaisant, mais on peut pas ne se comporter qu'en client. Qu'en client du service qu'est la démocratie, en disant j'attends qu'on me présente quelque chose qui me convient. On est 70 millions dans ce pays. Il faut du collectif pour faire changer les choses. Il faut de l'organisation, de l'engagement. Alors, ce n'est pas forcément à soi de le faire. Mais on peut adhérer, on peut soutenir, on peut défendre, on peut voter pour des gens qui s'approchent à peu près de nos idées. Est-ce qu'on peut participer sans être militant ou en asso ? Bah oui. Là, tu viens d'écrire un message sur un chat d'une chaîne Twitch qui parle de politique. T'as participé. T'as participé à ton échelle, à ta hauteur, sur cette humble petite chaîne Twitch, à une discussion citoyenne. Ben voilà, c'est un petit bout de participation. Pas le bout du monde, mais c'est déjà bien. On a le droit de consacrer sa vie à autre chose que la politique, c'est fou d'entendre ça. Qu'est-ce que t'as entendu qui t'a énervé ? Qui a dit quoi ? C'est comme ton informaticien au boulot, si tu vas lui dire ça marche pas, je suis fâché, il a gentiment t'envoyé bouler. Les devs, je vous ai reconnus, hein, les devs. Les devs, on vous connaît. Hein. Vous êtes susceptibles. Hein. Dev en force. On vous connaît. Si tu t'occupes pas de politique, elle s'occupera de toi. Oui. Bon, le truc, c'est que même si tu t'occupes de politique, elle s'occupe de toi. Mais oui, je vois l'idée. Je vois l'idée. Le problème, c'est que le principe même de l'élection ne permet pas d'exprimer toutes les opinions politiques. Quand on est anarchiste, c'est impossible de faire prendre cette opinion en compte numériquement à la même hauteur que les autres. C'est juste invisibilisé. Bon, il y en a plein des anarchistes sur Internet, hein. Après, s'ils sont invisibilisés, c'est peut-être qu'ils sont un peu invisibles, hein. Pardon, mais... Non, ouais, je sais pas. Il suffit de voter pour un chef des anarchistes qui organiserait les idées pour les faire connaître. Et puis le jeu démocratique n'intéresse pas les anarchistes vraiment. Non, effectivement. Alors pour le coup, les anarchistes, alors encore une fois, c'est une grande famille, c'est une galaxie, les anarchistes, c'est très compliqué. Ils ont une fâcheuse tendance à pas être d'accord les uns avec les autres en plus, ce qui rend pas la lecture facile. Les anti-autoritaires, les libertaires, les anarchistes, les communistes révolutionnaires, appelez-les comme vous voulez, ils portent aussi l'idée de la critique radicale de la démocratie. Ils prônent un abstentionnisme radical, un abstentionnisme militant. Donc oui, non, ça je leur en veux pas de pas participer aux élections. Ils sont contre les élections. Ce qui se défend tout à fait. C'est comme un monarchiste, hein. Imaginez un monarchiste tendance radicale, monarchie de droit divin, qui refuse d'aller voter. Je le comprends. Je veux dire, dans sa tête à lui, c'est cohérent. La France doit être dirigée par quelqu'un désigné par Dieu, point barre. Ok? D'accord. Effectivement, je comprends qu'il n'ait pas particulièrement envie d'aller mêler son bulletin de vote aux autres. Ouais. Il n'a qu'à demander à Dieu de voter pour lui par procuration. Non, mais... Conteste la légitimité du scrutin, je suis d'accord. Une personne élue n'est pas une personne légitime. Oui, certes. Alors, du coup, à partir de ce moment-là, oui, je comprends que tu participes pas à un scrutin. Ça a du sens. Et je maintiens que je pense que ces gens-là doivent pouvoir rester libres de ne pas voter. Je trouve ça violent, injuste et inéquitable de tordre le bras d'un anarchiste pour le forcer à aller dans un bureau de vote. Je comprends pas la logique de ne pas voter en tant que libertaire anarchiste. C'est en votant qu'on reconnaît l'autorité. Et du coup, pas bien. Hein ? Non, c'est pas ça. Non, 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 c'est pas ça. Les libertaires contestent le fait qu'une personne élue soit une personne légitime plus qu'une autre à prendre des décisions. Ils sont contre le principe délégatif de la représentation. La représentation est un mythe, la représentation est une fable. La représentation est une reconduction de la domination. C'est à peu près ça l'architecture de leur discours. Ils l'expliqueraient bien mieux que moi, mais c'est ça leur idée. Les libertaires et les anarchistes, c'est pareil. Comment te dire? Déjà que j'ai déjà eu l'occasion récemment de vous expliquer à quel point je me tiens à distance des embrouilles de cartographie et de catégorisation gauche-droite et autres subtilités. Disons que les anarchistes sont les personnes les plus susceptibles sur ce sujet-là. Voilà. Il y a un nuage de mots qui va être utilisé pêle-mêle par des personnes qui se représentent de ce camp politique-là pour se définir eux-mêmes ou pour définir les autres. C'est pour ça qu'on entend parfois anarchiste, on entend parfois libertaire, on entend parfois anti-autoritaire, on entend parfois communiste, révolutionnaire, situationniste, j'en sais rien, faut aller chercher après dans tout un jargon verbeux et dogmatique, c'est méchant de ma part, mais doctrinal plutôt. Voilà. Autonome, oui, t'as raison, les autonomes aussi. Autonomes. Voilà. La particularité de tous ces gens-là, c'est que quand on met deux dans une seule pièce, ils sont pas d'accord l'un avec l'autre. Voilà. C'est comme ça, c'est compliqué. Ils ont des différences, des subtilités, des mouvances. Il y a une histoire aussi derrière, très complète. Il y a des lectures, des doctrines. Voilà. Il y a des gens dont c'est le métier hein, de suivre tout ça. Il y a des auteurs, il y a des journalistes, il y a des gens qui écrivent des articles et des livres pour parler de cette mouvance-là. Si ça vous intéresse, il faut vraiment que ça vous intéresse, mais si ça vous intéresse, il y a une très très bonne série documentaire sur l'histoire de l'anarchisme que vous retrouverez sur la chaîne YouTube d'Arte. N'hésitez pas à la bouffer parce qu'elle est très chouette. C'est vraiment un très très bon documentaire, très bon travail de documentation. Vous avez également un podcast de France Inter qui s'appelle Enquête de politique, qui a fait 4 épisodes sur l'anarchisme. Pareil, 4 épisodes avec des spécialistes, avec de l'histoire, avec des sons, avec des machins pour vous aider à comprendre l'histoire de cette mouvance-là. C'est les deux ressources que je me permets de vous recommander. C'est trop bien, Enquête de politique. Ouais, c'est très très cool, Enquête de politique. J'aime beaucoup. C'est Thomas Legrand hein, qui a fait cette émission pendant plusieurs années. Super bon boulot de Thomas Legrand et de son équipe. Feu Legrand. Comment ça, Feu Legrand? Il va très bien, Thomas. Il n'est plus sur France Inter. Mais il est toujours à Libé, hein. Qu'est-ce qu'il a écrit, Thomas, encore, récemment? Marine Le Pen, c'est Nicolas Massol qui a écrit le dossier. Thomas Legrand, il y a toujours l'extraordinaire émission de Jean Massier hein, dans Libération, bien sûr. Montée au front, Libération, Backseat, 24 février à 19h. Rendez-vous sur Twitch. Non, je sais pas, il a écrit quoi, Thomas? Il a fait un papier ou pas? J'ai pas trouvé. Peut-être qu'il a pas écrit ce jour-là. Le grand, il a pas disjoncté? Quoi? Comment ça, le grand, il a disjoncté? On parle bien de Thomas Legrand, le journaliste de Libération, qui a travaillé sur France Inter, notamment en faisant enquête de politique. C'est une blague. Quoi? Non, mais je l'ai pas. Non, mais vous êtes chiant. Non, mais il y a des refs, je les ai pas. De quoi, c'est quoi la blague? C'est une référence d'électricien, putain. Non mais les gars, déjà quand les devs ils font des blagues, j'ai du mal. Mais alors les électriciens, les interrupteurs Legrand. Oh, elle est technique. Elle est technique de ouf. J'étais pas au courant. Voilà, celle-là je l'ai, maintenant je l'ai, ça, j'ai compris. J'ai compris qu'on était dans l'électricité, tout ça. Oh non, vous faites mal au crâne, hein. Le Grand, c'est une entreprise du CAC 40. Je savais pas. D'accord, ok. Ouais, c'est du matériel informatique. C'est du matériel électrique. Ok, ok, ok. Oh, vous m'avez tué. Les copains, on va faire le point. On va faire le point sur l'émission sur la semaine prochaine. Pour que vous écriviez bien dans vos agendas. Lundi, on se retrouve sur la chaîne Twitch d'Arte, à partir de 18h30, 19h, je ne sais plus, pour l'émission Euroguesseur. L'émission Euroguesseur est une émission que j'anime sur la chaîne d'Arte, avec des invités, des créateurs de contenu et tout. Et on parle d'Europe, mais sans se faire chier. C'est ça la promesse. Demain, on fait une émission spéciale sur le Groenland. Pas demain, lundi. Lundi, émission spéciale sur le Groenland. Autour de tout ce qui est... Hein, voilà, Donald Trump, tout ça, tout ça. Donc lundi, émission Eurogasseur sur la chaîne d'Arte. Mardi, QAG. Mercredi, QAG. Jeudi, il n'y a pas Backseat. On reprendra Backseat le 24 à Toulon. Et vendredi, on fera une FAQ, je pense. Hop. C'est quand les vacances? Pas tout de suite. Je vais m'arrêter là, les copains. C'était cool. C'était cool. On a parlé de plein de trucs. Est-ce qu'on fait un raid? Est-ce qu'on se ferait pas un petit raid? Ah bah tiens, un raid chez Map Assistant. Map Assistant est un streamer qui fait partie de mon équipe sur Euroguesseur, vous le retrouverez lundi. Map Assistant est un ancien assistant parlementaire du Parlement européen. Il parle de politique sur Twitch, mais de politique européenne. Il est spécialiste de la politique européenne. Hop. Attendez. Merde, j'ai perdu. Est-ce que le raid a été lancé ou pas? Attends, je comprends rien. Comment je suis censé lancer le raid? Attends, vous êtes toujours là ou pas? C'est annulé? Mais attends. Parce que là, il vient de me lancer ça, il me dit se connecter au chat de Map Assistant. Mais moi, comment je fais pour confirmer le raid? Ah non, il me dit que c'est dans 2 minutes le raid, mais c'est beaucoup trop long. Donc là, il y a 2 minutes à meubler. Voilà, alors bonjour. Non, mais c'était chouette, merci, merci à tous et à toutes. Manger la brigade de Véro, c'est bon. En vrai, tester, c'est bon. Juste tester, une semaine pour checker. Et vous me dites. Quoi vous dire de plus? Message de raid? Non, il n'y a pas de message de raid. Soyez sympa avec Mep. Soyez sympa parce qu'il a beaucoup moins de viewers que moi, donc vous allez débarquer à beaucoup, donc soyez cool. Soyez cool, soyez cool. Voilà. Quoi? Je comprends rien. Mais non, mais c'est la première fois que j'utilise Twitch Chat. Comment je sais si c'est lancé ou pas? Ah non, il reste 26 secondes. 26 secondes, c'est le temps de vous dire que je vous aime, que ça m'a fait plaisir de passer du temps avec vous, que je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais que j'espère que vous en ferez partie pour moi. Dans ma vie, vous comptez beaucoup. Merci d'être là. Surtout, surtout, surtout ceux qui s'abonnent. Après, les autres aussi, je vous aime bien. Hein. C'est pas de pression, hein. Mais il y a quand même un petit plus pour ceux qui s'abonnent quand même. On ne va pas se mentir. Et là, le raid, il est parti. Il est parti ou pas?
Le couple franco-allemand. Je vous explique. En France, ouais, effectivement, bon. On parle beaucoup du couple franco-allemand. On a